c'est l'heure.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio.
Live de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Marceau le midi.
All right, c'est parti. Bon midi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Très content de vous accompagner jusqu'à 14h. En compagnie de Pascal Cévé, qui a de l'air en forme aujourd'hui.
Très en forme.
Qui a transformé mon studio de radio en un studio de kiffeuse.
Non, mais c'est parce que ce matin, j'allais m'entraîner. Je suis tombée sur nul autre que Audrey Pinchot.
Oui.
Qui, elle, avait un autre rendez-vous qui finalement n'a pas eu lieu, peu importe.
Uh-huh.
Fait que j'ai dit, ben viens t'entraîner avec moi. Elle a dit oui.
Mm-hmm.
Je dis ça parce que t'es toujours invité à venir essayer une session avec Ravière au Tonic Gym et moi.
Elle a certainement sué si je me fie à l'odeur du studio depuis 10 heures ce matin.
Elle a été très bonne. Ça a été même motivant et très comique. Puis, tu sais, on n'a pas des forces égales. Dans le fond, on n'a pas les mêmes forces, Audrey et moi.
Qui est la plus forte?
Des bras, sûrement, c'est Audrey, je veux dire. Ouais. Elle est super bonne. Elle a vraiment un bon corps. Puis, les pattes, là, les jambes, je pense qu'on se ressemble. Mais, tu sais, on ne s'entraîne pas de la même manière. Moi, en ce moment, je m'entraîne en endurance, qui n'est pas nécessairement en performance rapide et short.
Okay.
Puis, elle est bonne là-dedans. Donc, là, bon. Mais le fit a été super, ça a été motivant. Puis merci à Ravière.
Toi, t'as pris ta douche?
Visiblement, moi, je travaille pas à 10 avec toi en présentiel. Donc, j'ai cette possibilité-là. Mais je me suis dit, Audrey, si jamais je peux t'apporter quoi que ce soit, soit tout le kit nécessaire pour se sentir mieux dans sa peau après un entraînement-là, shampoing sec, petite lingette, déodorisant, ça m'a pris beaucoup, je l'aime. C'est là qu'elle voit que je l'apprécie.
C'est ça.
Il prêtait mon déo, là. J'ai dit, celui-là avant, après. Mais je suis très dédaigneuse, ça fait que ça, c'est beaucoup d'amour.
Puis t'as transformé le studio en salon de coiffure.
Oui, bien,
c'est quoi le push-push que t'as mis?
C'est du shampoing sec. Ça, c'est une révélation depuis les 15 dernières années.
Mm-hmm.
Ça existe, puis dans le fond, ça va nettoyer un peu ton cheveu sans eau. Je te dis pas que tu peux faire ça à chaque fois, sinon t'es vraiment mal propre, là. Puis ton cheveu devient un peu de la paille à long terme. Mais ça va enlever le sébum, ça va vraiment travailler ton cuir chevelu. Ça fait que c'est un super allié féminin.
OK.
Vraiment. C'est juste que ça sent...
Ça sent la gadaille.
C'est plus que la gadaille.
Ça sent la gadaille.
Ça sent là, tu sais, le studio de coiffeuse là, des permanentes d'autrefois. Là, au départ, c'est ça. T'as failli mourir.
Hey, on a changé l'horaire de l'émission.
On n'a pas le choix.
En raison du fait qu'hier, il y avait un dieu qui embarquait sur la surface glacée du Centre Bell à Montréal. Ivan Demidov. Donc, on a décidé de faire un pèteux de brou spécial aujourd'hui avec Coach Gilbert et notre chum Max Larouche.
D'expérience.
C'est pas de 20 jours, ça fait des budgets à la place.
Qui donne leur opinion?
Il doit faire ça.
En tout respect.
Il y en a un là, un petit baveux en bas, là, ça dort, là. Comment il a bien ça? Il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu.
Voici les pétus de brou.
C'est légal. Ouais, c'est légal.
Coach Gilbert, considère-toi comme salué, mon ami.
Salut, comment tu vas?
On est content de te jaser, même si t'es dans la ville de Montréal. T'es à distance. Ouais. On est content de te jaser. Merci d'être là, soit dit en passant.
Mais tu dis, même si t'es dans la ville de Montréal, mais je peux te dire qu'hier, c'était une belle soirée pour être dans la ville de Montréal. J'ai pu vivre un petit peu la frénésie des Midov.
Ah ouais, tu nous raconteras ça. Salut Max!
Salut!
Très content de te voir. Toi aussi, t'as regardé le match hier?
Le plus possible, j'étais un pop quiz hier, fait que là, j'essayais de regarder.
T'avais dit oui avant de savoir que Demidov allait jouer.
Okay. Oui, je m'étais engagé avant qu'on sache que Demidov arrivait à Montréal puis qu'il allait jouer, mais j'ai regardé une bonne partie quand même.
On me disait que ça allait être historique, là, la venue de ce gars-là à Montréal, fait que je pouvais pas rater le match, tu comprendras. La troisième période, je ne l'ai pas vu parce que j'avais ma game de hockey.
Mais je pense, Yannick, qu'il y avait des écrans qui habituellement ne diffusent aucunement le Canadien dans certains endroits, comme le pop quiz à Max, qui se sont dit « Ouais, ben ce soir, fuck la musique, ce sera Demidov. »
Coach Gilbert, je ne sais pas si je suis trop excité, mais j'ai l'impression que, bon, il a fait 2 points hier, ce qui fait en sorte qu'il est parti sur une saison de, quoi, 164 points à peu près. Là.
Ouais.
Comment tu l'as trouvé? Écoute, il a 19 ans, il n'a pas semblé impressionné par le fait qu'il débutait sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il a très bien fait. C'est un exceptionnel.
Écoute, pour l'instant, je pense qu'on nous le vendait comme un exceptionnel. On a vu qu'il était exceptionnel dans la KHL pour un jeune homme de 19 ans. Hier, rapidement, on a vu que. Parce que tu te demandes toujours, une fois rendu sur une patinoire qui est plus petite, dans un style de hockey nord-américain qui est très différent de ce qui se joue en KHL, qu'est-ce que ça va donner ici? Hier, ils l'ont quand même mis sur un trio avec Joel Armia, qui, on s'entend, est plus défensif qu'offensif, et Niwa, qui est quand même encore un jeune joueur. Fait que, tu sais, ils le mettent quand même dans une belle condition pour pas qu'il se mette dans le trou, mais il a quand même réussi en quatre chiffres. De faire des choses exceptionnelles, qui ont enlevé rapidement la pression sur lui. Là, on s'est entendu que s'il avait fallu qu'il ait 5, 6, 7 matchs sans points, ça aurait pu devenir lourd par rapport à toute l'attention qu'il avait eue. Mais hier, en tout cas, moi, du moins, pour le petit échantillon qu'on a vu, parce qu'ils ne l'ont pas mis dans des situations difficiles, moi, j'ai été excessivement impressionné. Son premier jeu, c'est tout lui qui a fait. Il a même réussi à faire compter Newhook, ce qu'il n'était plus capable de faire depuis plusieurs matchs. Mais son but, là, t'as vu les mains, la vitesse, rien pour l'impressionner. J'ai été agréablement surpris. C'était vraiment une belle première période.
Dans vos analyses, vous n'étiez pas biaisés, les gars?
Ben oui, je veux dire, ça touche le Canadien de Montréal. On nous vendait le gars comme étant le meilleur choix depuis Guy Lafleur. C'est sûr et certain que ça fait tellement longtemps qu'on attend la possibilité d'avoir un autre coupe à Montréal. Puis on a eu des années de vache maigre comme pas possible. Puis notre meilleur joueur, c'était Carey Price des dernières années.
Puis là, il y a Nick Suzuki qui est super bon, bien complet. On sait que Caulfield est capable d'être excitant, mais... Moi, un talent comme ça, là, un talent pur comme ça, un gars avec autant de skills, ben potentiellement que j'en ai jamais vu de ma vie encore avec le Canadien. Puis tu sais, ce qu'on a vu hier dès ses premiers chiffres, d'avoir autant d'aisance avec la rondelle, tu sais, c'est un peu niaiseux la comparaison avec Lane Hudson en défense, mais en même temps, elle s'explique par le fait que les gars touchent. C'est le genre de joueur qui touche à la rondelle. Il se passe quelque chose, tout le monde devient au bout du siège, puis tout le monde devient un peu excité, puis on est chanceux en tabarouette d'avoir le petit Lane Hudson en défense, un petit peu plus grand Demidov en attaque, qui a quand même une shape qui a bien de l'allure, puis on l'a vu hier, capable de bien protéger la rondelle. On est gâtés si tout se passe comme c'est supposé.
Ses premiers coups de patin, coach Gilbert, là, lui ont clairement mentionné « Tu es le dieu qui vient d'arriver à Montréal. » Puis le fait qu'il a réussi quand même à bien performer. Bon, sur le troisième but, moi, je considère que c'est de sa faute, là, même s'il y en a qui disent « c'est pas de sa faute ». Il a arrêté de patiner puis il a laissé aller le joueur, tandis que je pense que c'est Goulet qui essayait de backer le plus possible pour empêcher le joueur de marquer. Le troisième but, c'est de sa faute à lui. Mais pour le reste, là, je veux dire, tu sais, des fois, là, tu parles devant 10 personnes puis tu bégayes. Lui, il y avait tout le Québec qui le regardait de faire ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey, puis il n'a pas semblé très dérangé par ça. Moi, il m'impressionne beaucoup.
Il a plutôt eu l'air d'un jeune homme excité, content d'être là, avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis tu te dis peut-être que il y a 5 gosses à la glace, là, peut-être que oui, il aurait pu mieux faire au niveau du troisième but. Par contre, si ce n'est pas de ses 3 premières présences... Ils ne sont même pas là, on ne va même pas en prolongation hier. Là, il a quand même généré un but, une passe. Sans lui, il n'y en avait pas de match.
Puis il ne faut pas négliger l'ambiance qu'il va amener aussi. T'sais, le gars, même s'il ne donne pas tout ce qu'il a à donner ou à nous démontrer là, pour la fin de la saison, ce qu'il va amener comme vent de fraîcheur auprès de l'équipe va peut-être les amener à eux-mêmes, chacun des joueurs, aller plus haut, remettre la partie dans leur priorité pour être meilleur. Moi, je pense que ça peut jouer aussi.
Ouais, puis un joueur offensif, à un moment donné, va créer aussi des situations défensives qui vont être plus difficiles. Mais ceci dit, pour l'instant, moi, hier, je lui donne une note de A+. Je pense que les prochains matchs risquent d'être moins explosifs que celui-là. En tout cas, on verra. Là, mais pour l'instant, hier, c'était un excellent premier match pour quand on prend tout ce qui était artificiel autour de lui puis tout ce qui pouvait le déconcentrer. Je pense qu'hier, il y a quand même eu un excellent premier match.
Alors, je suis peut-être un peu trop excité, là, mais le prochain match, est-ce qu'on le met sur un autre trio puis est-ce qu'on le met sur le power play, la première ligne?
Ben moi, avec ce que j'ai vu hier, je pense que Slafkovski est en danger. Je plus vite que plutôt que tard, moi je le mettrais avec eux autres, c'est clair, net et précis. Là. Des fois, on voit que Slafkovski tire de la patte un peu. T'sais, on sent l'essoufflement là, de l'équipe. Là. On est dur envers le Canadien en ce moment à dire que Krimi tarde à prendre leur place en série avec la défaite contre Ottawa. Ils ont quand même ramassé un gros point. Ils ont joué un bon match contre Toronto, mais on sent là, que c'est... Tu sais, courir toujours après les matchs, là, on commence à voir un manque de profondeur aussi un petit peu. Clairement, on espère que... Je pense qu'ils vont tout faire ce qu'il faut pour être capable de gagner le match mercredi contre Caroline, à moins que ça se réglerait ce soir entre Columbus et Philadelphie. À son compatriote Mishkov de faire le travail ce soir et d'essayer d'impressionner le reste de la galerie, justement, pour être capable de montrer que lui, c'est lui le meilleur russe à ses yeux, mais j'espère qu'il va faire la job à ce soir.
J'ai hâte de voir ce que Martin Saint-Louis va faire, parce que des fois, on le sent un peu réticent à bouger ses trios. Tu sais, là, le trio Slavkovski avec les deux autres kids, avec Caulfield et Suzuki, ça a fait un bout, mais Slavkovski, quand il est bon des matchs, il est bon, puis on comprend le package qui a été repêché à Montréal, puis le potentiel, puis... mais c'est souvent quand même difficile pour Slavkovski. Moi, d'avoir un souffle nouveau comme Demidov qui arrive, hier, je pense que le trio Slavkovski, Caulfield, Suzuki finissait même pas le match ensemble, là. Moi, je pense que déjà, je mettais Demidov, puis que déjà, Demidov était sur le premier avantage numérique. Puis...
tu le fais jouer où au premier avantage numérique?
Ouais, ben, tu fais prendre la place de Slavkovski. Là, maintenant, dans stratégie, je sais pas comment ça va se placer. T'sais, on sait que Demidov est un gars qui est autant capable de marquer des buts que de faire de fabriquer des jeux. Fait que genre de voir comment ça pourrait changer la dynamique.
Ouais, et Maxime, cet avantage numérique en ce moment est très prévisible. Taux d'efficacité qui est beaucoup moins élevé qu'il l'était. On cherche à passer à l'aîné. Clairement, ça, on a besoin de créativité. Là. Fait que moi, je vois mal pourquoi on ne défrait pas cette quintuple-là. Mais puis je suis le seul surpris qu'on n'ait pas mis Demidov au lancer à la fin du match à la place de... l'aîné? Ou...
ouais.
Ben moi, je l'aurais essayé pour le show, mais en même temps, Martin Saint-Louis voulait être sûr d'être des séries éliminatoires hier, puis avec l'aîné...
Ben moi, être sûr d'être des séries, il me semble, j'aurais vu Demidov.
Ouais, mais je sais pas si toute l'évaluation de Demidov est complétée à l'heure actuelle. Je veux te parler de Lane Hudson, qui a battu le record de Chris Chelios. Donc, oui. il reste juste à se taper la femme du président, puis après ça, je veux dire, il a tout battu les records à Montréal.
Ben, tu sais, on pourrait battre les records de Chelios sans prendre les défauts de Chelios, idéalement. Ça pourrait peut-être aussi
être une chose. Ça serait encore mieux.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Je pense. Mais tu sais, oui, 65 points d'une saison recrue en 80, même pas 78 matchs. Oui, il est à 83 matchs, je pense, dans son cas.
Et Chris Chelios, il avait, ça se peut pas. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il avait menti parce que lui, il disait qu'il jouait à pointe, mais il n'avait jamais joué à pointe de sa vie, de mémoire. C'était un joueur d'ailier. Puis à un moment donné, il a réussi à se trouver une place comme défenseur. Puis c'est comme ça qu'il a réussi à monter les échelons. Mais c'est un joueur d'attaque, Chris Chelios, au départ. Là.
C'était surtout un gars de 6 pieds, 200 livres versus un gars de 5 pieds, 9, 160 livres. Là, c'est surtout ça qui est impressionnant dans l'hockey d'aujourd'hui, là, d'avoir réussi à faire 65 points. Puis tu sais, si on compare avec les autres du Canadien qui ont été là avant lui, après ça, je pense que le record tombe à 45. Là, fait qu'on est à peu près à 20 points de ce qui est plus normal. Là. Fait que c'est plus que spectaculaire ce qu'on a vu de Lane Hudson. Puis c'est le fun d'avoir que Demidov et lui soient déjà de bons amis s'ils peuvent justement avoir une genre de complicité puis être capable de l'exposer à tous les matchs. Ça va être assez spectaculaire dans le futur, mais on va avoir besoin de profondeur, on va en avoir besoin de ces joueurs-là puis de d'autres qui vont s'en venir, comme des Michael Hage et compagnie, parce que clairement, on le voit que la profondeur est mince. Fait que vivement, ces jeunes-là qui produisent puis qui battent des records, on va en prendre pour les 10 prochaines années.
Est-ce que, parce que moi, ce qui me surprend, je pense qu'on se l'était dit au début de l'année, Coach Gilbert, moi, je me disais, attends un peu, là, c'est parce qu'il joue contre des gars, des fois, qui ont 100 livres de plus que lui. Ça va être un petit peu plus difficile dans les coins. Puis tu m'avais dit, Yann, d'après moi, à cette grosseur-là, il a appris à se mouvoir dans les coins avec des gars qui étaient pas mal plus gros. Je sais pas si toi, ça t'a impressionné là, de voir ce qui arrive actuellement avec Lane Hudson, mais moi, ça m'impressionne beaucoup. Malgré le fait de ce que tu me dis, là, tu sais, de le voir contre des gars de 2,40 là, dans le coin, puis il réussit quand même à sortir avec la rondelle.
L'as-tu vu se faire cogner?
Ouais, oui,
l'as-tu vu se faire cogner solidement, mais solidement là, gelé? Là.
Non.
Pas tant que ça, là. T'sais, il réussit, il roule. T'sais, Suzuki est bon là-dedans aussi. Là. Caulfield un peu, c'est rare qu'ils se font... Suzuki s'est fait laminer, comme on dit, là, samedi soir une fois, là,
ouais.
Devant le banc. Là. Mais à part ça, ces jeunes-là maintenant, qui ont des souvent des physiques qui sont moins imposants, trop, ont vraiment appris dans le temps, dans le passé à éviter de se mettre dans des situations dangereuses. Parce que, tu sais, plus tu es jeune, plus qu'il y a des différences de grosseur corporelle. Puis, tu sais, pour avoir joué dans des niveaux comme ça, plus jeune, là, mais pas aussi élevé qu'eux autres, bien sûr, là, c'est même pas proche. Tu tombes dans des ligues, des fois, que c'est tout ce qu'ils cherchent, c'est ça. Là. C'est de geler des jeunes, puis d'être capable de montrer leur supériorité physique. Mais fait que je pense qu'ils apprennent ça bien jeune, puis ils arrivent en haut, puis ça les impressionne pas. Est-ce que j'aurais pensé qui aurait été aussi spectaculaire? On le voyait venir beau, on souhaitait qu'il serait bon, mais bon comme ça, moi, je suis le premier à être impressionné de ce que j'ai vu cette année avec une production aussi élevée dans une équipe qui n'est pas si productive.
Ce que j'ai hâte de voir, c'est en série maintenant, parce qu'en série, là, c'est pas juste un mythe que le jeu devient plus robuste puis plus physique. Là. En série, ça frappe pour vrai, puis ça frappe oui. fort, puis ça frappe souvent. Puis c'est des matchs qui sont rapprochés, il y a des rivalités qui se créent avec des équipes. Lane Hudson, puis si c'est pas cette année, ce sera dans les prochaines années, mais va être visé par des équipes. Puis tu sais, là, contre les Capitals de Washington, mettons qu'on épogne en première ronde, là, Elgiro, Tom Wilson, il va aller te finir les mises en échec, puis les arbitres laissent plus de latitude, puis ça peut faire 2-3 secondes que t'as fait ta sortie de zone, puis que t'as plus la rondelle. Ça se peut qu'on laisse aller à mise en échec. Puis tu sais, c'est juste t'es tempé dans la bande des fois, mais quand c'est le gros Tom Wilson qui t'accote, puis qui te fait ça une couple de fois par game, ça peut devenir tough sur le corps.
On va le voir aller.
Ouais, j'ai hâte de voir.
Est-ce que... oui, vas-y, coach.
Non, j'allais dire, tu as 100% raison, Max, dans ce que tu dis, mais est-ce qu'il va réussir à faire comme toutes les autres fois qu'on a dit que c'est ça qui arriverait, puis ça n'arrivera pas? Mm. Tu sais, aux exceptionnels, c'est exceptionnel.
Est-ce que Goulet essaie d'en faire trop là, depuis quelques matchs? Là, il essaie de sortir l'arme du joueur quand il décide de rentrer dedans. Là, il est allé dévisser un joueur l'autre bord. Tu te dis, le gars, s'en venait vers le gars, mais le gars, c'était impossible qu'il voie la rondelle. Là.
Mais ça, Goulet ne peut pas le savoir d'avance. Qui va pas toucher à la rondelle. Et le Goulet a fait le bon move là-dessus.
Et tabarouette. Et puis il était pareil contre Toronto samedi, si tu as regardé le match. Là.
Mais hier, c'était pas
sérieux,
c'était pas clean.
Je pense que c'était pas clean. Ça va vite, Yannick. Là. Comme Max dit, le joueur est sur le bord de la bande, la rondelle, elle s'en vient. T'sais, il s'en va vers il longe la bande, puis il s'en va vers l'avant. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas avoir la tête d'un patin. Là. Tu le sais que l'autre, il va s'en venir. Goulet peut pas dire, je m'en vais le plaquer au cas où que la rondelle, il prend pas la rondelle, je vais breaker. Là, t'es rendu dans l'élan, ça va vite. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis c'est ce qu'on veut voir de Goulet.
Ça méritait ça un 2?
Oui, dans le
contexte. C'était, écoute, parce que ça a été vite, on va dire que oui. Mais
parce qu'il était pas en possession de la rondelle. Là.
Ouais, mais il était supposé d'être en possession. Je veux dire, maintenant, si t'allais se passer quand Claude arrive, maintenant, t'es comme qualifié comme t'es en possession. Ceci dit, c'est correct, ils ont donné un 2 puis ils ont sorti tout le monde autour parce que ça a brassé. Mais j'ai l'impression que c'est drôle, s'il était tombé ses fesses puis que la game avait continué puis qu'il n'y avait pas eu de rififi, j'ai l'impression que je suis pas sûr qu'il y aurait eu un 2 moi là-dessus.
Est-ce que le Canadien va réussir à faire les séries au prochain match? Parce que là, ça prend juste un point, là, ce qu'on comprend. Là?
Ouais, juste un point, ça fait longtemps que ça prend juste 2 points, juste un point. J'ai hâte que ça finisse, cette histoire-là. Je commence à être un peu... Mais tu sais, si on se rend pas, c'est parce que c'était pas notre place. T'sais, Columbus fait ce qu'il y a à faire en ce moment. C'était la place à Columbus depuis longtemps. Je sais pas si tu as regardé le match dimanche entre Columbus et... c'était contre les Capitals. Les deux matchs en fin de semaine, Columbus ont été impressionnants. Là. Ils ont une maudite bonne équipe. Ils sont gros. Ils jouent ce qu'ils ont à faire. T'sais, je pense que ce qui est arrivé, c'est que les Canadiens ont eu une séquence de victoires quand eux ont eu une petite séquence de défaites. Ouais. Ça a bien fait. Ça les a mis dans de bonnes positions. Maintenant, à eux de gagner leurs deux matchs en temps réglementaire ou aux Canadiens de faire sa job. C'est sûr que dans le meilleur des scénarios, les Canadiens demain règlent ça avec au moins un match qui se rend sur table, c'est réglé.
Ou ça peut se finir à soir, oui.
Ah, puis on va l'écouter, puis on souhaite en maudit que ça se finisse ce soir. Pas parce qu'on veut pas que le Canadien le fasse lui-même, là, parce qu'on veut que ça finisse, puis que tout le monde tombe un peu plus d'un mode relax, parce que ça doit être fatigant mentalement pour les joueurs.
Ben là, personne n'y croit. Moi, je regardais un peu le sport ce matin dans les articles de différents journaux. Personne n'y croit, là.
Bienvenue au Québec. On est toujours un peu...
Moi, j'y crois, là.
Moi aussi.
Ouais, mais là, êtes-vous justement biaisé en y croyant?
Ben, les probabilités sont encore... hier étaient à 98%, si je ne me trompe pas. Donc, sont descendus seulement à 93% aujourd'hui.
D'aller faire les séries?
Oui.
Mais là, c'est haut comme pourcentage.
Ben ouais, on va y faire. Là. Je pense qu'il y a du monde qui capote un peu présentement, mais les stats sont encore vraiment du bord de Montréal.
Il y a beaucoup d'émotions. Coach Gilbert, c'est toujours un plaisir. Un gros merci d'avoir réservé un peu de temps. Là. On te souhaite une belle journée sur l'île de Montréal. Oui, y a-t-il encore une manifestation devant tes bureaux? Là?
Non, terminé. Ça a été chèque hier, mais non, c'est terminé. On a moins de ça, Québec, dans notre coin, au niveau de nos bureaux.
On
Ici,
est
c'est quand même,
bien
étant au-dessus des bureaux de la CAQ, mettons qu'on est plus exposé cette année.
Salut, coach. Bye-bye. Merci. Merci, Max.
Merci.
Salut. On t'écoute demain avec Red Juggins. Le matin, 11h54, on s'arrête, on vient.
Les petites bourres. Oh non! Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Denis Gravel qui aujourd'hui arbore les couleurs des cocos de Pâques.
Oui,
6 degrés sur Québec. C'est moins ensoleillé qu'hier. On me dit qu'il pleut. Oui, je vous confirme qu'il pleut dans le secteur Le Bourgneuf. Et ce sera ça toute la journée et toute la soirée. Pour ce qui est de ce soir, c'est 5 mm annoncés. Minimum de plus 4 degrés. Salut, Denis Gravel.
Yo!
On a-tu une semaine de 4 jours cette semaine?
Oui, monsieur.
C'est vrai, je l'ai appris aujourd'hui.
Quelle belle surprise.
Ben là, attends, c'est qu'il lui pas
C'est juste que j'y avais pas pensé.
Mais c'est constant, ça, à chaque année?
Oui, mais ben, je sais.
Dans le courriel aussi, c'était écrit.
Mais c'est Audrey qui m'a dit, hey, jeudi soir, on fait une soirée spéciale, on ouvre la Switch à 19h, puis on reste avec les auditeurs jusqu'à temps qu'ils soient plus capables de nous entendre.
C'est vrai.
Fait que j'ai hâte de voir à quelle heure qu'on va partir jeudi soir. Oui, oui, oui. J'avais mes enfants jeudi soir, fait que je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais c'est pas grave, tout va bien aller.
Il y a YouTube, ça, TV, au bureau, ça mobilise les miens, ça peut mobiliser les tiens,
vraisemblablement. Oui, il y a un divan aussi pour
ton plus grand, tu regardais la game du Canadien hier?
Oui! On a regardé la première période ensemble, ce qui fait en sorte que... Puis c'est drôle parce que j'étais dans la cuisine quand Demida va scorer.
Ah.
Papa! Papa! Il a scoré! Il a scoré! Puis ma blonde essayait de comprendre c'était quoi l'explosion de joie ou l'engouement. Fait que non, ça a été... c'est incroyable que le Canadien ait échappé ce match-là. Je veux dire, tout était écrit après la première période pour que ce soit un moment important. Mais quel choke d'équipe!
Demida va livrer la marchandise.
Oui!
Lane Hudson a livré la marchandise.
Oui.
La foule derrière le Canadien a livré la marchandise. Montembeau a livré la marchandise.
Oui.
Mais les autres joueurs du Canadien, put, complètement morts.
Achètes-tu l'explication de Martin Saint-Louis de dire « c'est une équipe jeune puis sont stressés ». Sont stressés. C'est dur de dealer avec ça, mais en même temps, on ne peut pas se le cacher. C'est des flots, ils veulent faire les séries, ils sont nerveux, ça paraît sur la glace.
Ça peut être ça. T'sais, lui, il est dans la chambre, là, fait que nécessairement, il voit pas mal plus que toi et moi. Mm. Mais oui, ça pourrait être ça. Mais de voir Demidov pas stressé avec rien, hey, écoute, tu arrives dans un endroit, tu parles pas la langue de la place, puis tu mets tes premiers pieds sur la glace, puis ça gueule comme t'as jamais entendu gueuler.
C'est ta folie.
Ça crie Demidove, Demidove, Demidove. Je te le dis, sa blonde doit commencer à capoter.
Quand j'ai parlé à Pierre-Aude vendredi, on essayait de trouver le dernier attaquant du Canadien qui avait généré autant d'intérêt et autant de buzz.
J'ai Kovalev en tête.
Kovalev était... C'est un attaquant, Kovalev? Oui, oui. Kovalev n'est pas une mauvaise réponse.
Parce qu'il était électrisant. Ouais. Des fois, il se traînait les pieds, là, mais quand ça y tentait, il était capable de faire ce qu'il voulait sur la glace. Et je me souviens, c'est-tu contre Toronto, à un moment donné, il est victime d'un coup vicieux de la part de Darcy Tucker. C'est-tu un genre de coup de coude?
Uh-huh.
Il perd son casque, puis Kovalev avait les cheveux longs.
Oui. Ce qui
faisait en sorte qu'il patinait, puis quand il avait la rondelle, il pouvait faire ce qu'il voulait. Hmm. Il a fait comme le tour de la patinoire. Il était du côté offensif, bien entendu. Puis après ça, il est allé retrouver Darcy Tucker pour le fesser avec la rondelle. Ça fait juste pas de bon sens. Mais moi, j'ai Kovalev en tête. Il était extrêmement excitant à voir jouer.
C'est quand même là qu'on voit à quel point le Canadien a jamais focusé sur les attaquants de premier niveau. T'sais, on a focusé ces goalers, là, on le sait, là, on l'a fait en long et en large là, depuis Ken Dryden ou depuis Patrick Roy. Il y avait un focus gardien de but. Mais la pièce maîtresse qui a toujours manqué aux Canadiens, c'est un joueur de premier trio qui score des buts.
Ouais.
C'est un David Pastrniak. C'est un... Je veux pas aller à Connor McDavid nécessairement, mais un John Tavares. Est-ce que Demidov et ce gars-là, il a tellement montré de maturité sa glace.
Hier.
Je trouve que le jeu de sa passe est plus impressionnant que le jeu de son but.
Ouais.
Tu vois à quel point il est capable de se placer sa patinoire. Il a des bons réflexes. Il a de la vitesse. C'est une première game, faut se calmer. Mais tabarnouche. Martin Saint-Louis aurait dû l'envoyer d'un trois premiers gunners pour la fusillade.
C'est ce que je pense. Mais en même temps, il s'est dit, garde, je tousse bien d'envoyer Patrick Laine, il a plus d'expérience, puis si je l'envoie pas, je vais peut-être avoir des problèmes avec pour ce qui est des prochains matchs. Garde, il a pas marqué de but, mais moi, il y a un jeu que Demidov a fait qui m'a fait halluciner. Sa passe était très impressionnante sur le but. Son but, je l'ai adoré.
Oh oui.
Mais à un moment donné, Alex Carrier, qui est en arrière, qui est sur le point de prendre la rondelle, Demidov le regarde même pas. Puis fait une passe entre ses jambes.
Oui.
Tu sais, je veux dire, ça s'invente pas.
Exact.
Le gars, il a un talent. Ça se pratique pas. Le gars, il a un talent naturel. C'était de toute beauté. Hey, t'as rencontré le maire Marchand hier.
Ben
comment
oui.
ça a été, l'entrevue?
Ça va être le fun, la campagne électorale, parce que c'est déjà le fun. Il l'aime pas, sa mamade. Sa mamade l'aime pas. Puis j'ai senti que déjà... Il y avait une bonne animosité de base.
Ouais. Est-ce que tu t'as expliqué pourquoi il l'appréciait pas tant?
Ben, moi, c'est la même question que je me pose parce que je me dis, c'est sûr que ces deux gars-là se sont côtoyés auparavant dans leur fonction unique qu'ils avaient chacun de leur bord, mais qui n'était pas de la politique, par contre, pour Bruno Marchand, mais tout presque.
Je pense juste que Bruno Marchand est orgueilleux, puis ça l'a pogné aux tripes, peut-être, de voir sa mamade rentrer dans la campagne électorale puis dire... La taxe aux chats, c'est de la bullshit. La taxe à l'immatriculation, ça marche pas. Telle affaire, ça marche pas. Les foyers, ça marche pas non plus.
Il aime pas l'honnêteté.
Ça manque de leadership. Moi, j'aurais pas fait ça de même. On a mal négocié, c'est pour ça qu'on a des pénalités sur le tramway. Mais il manque toujours le bout d'après. Puis c'est ça, je pense, l'emphase que Bruno Marchand a voulu mettre hier, de dire, il dit ce que le monde veut entendre, mais qu'est-ce qu'il fait à la place? Il va chercher son argent où? Comment il va s'organiser? Ça, c'est les bouts qui manquent. Moi, c'est le message de base que j'ai perçu hier de Bruno Marchand. Puis c'est peut-être la faiblesse actuelle de la façon dont sa mamade s'est présentée. Il dit qu'il y a des solutions à présenter, mais présentement, on les a pas.
Ouais, il veut les dévoiler comme une effeuilleuse pourrait le faire. Sur
exact.
Plusieurs jours.
Ouais, ouais.
Est-ce que Marchand avait parlé d'embellir le passé? C'est de ça qu'il parlait avec sa mamade? C'est-tu de ça? Parce que je pense que j'ai un extrait à ce sujet-là.
OK, vas-y.
Prenons Agnès Maltais. Là. Agnès Maltais, avec son appui au centre Vidéotron, là, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé au PQ?
Ben, elle manquait de tuer le PQ, littéralement.
Ben, c'est des débats. Là. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Je dis pas qu'elle avait tort, Mme Maltais. Là. Loin de là, là. Je fais juste dire, ces débats-là ont lieu de tout temps. C'est facile... Ça, c'est le classique. Hein? On regarde le passé, puis on se dit, on regarde juste le beau. On laisse la crème remonter, puis on oublie tout ce qui allait pas si bien que ça, tout ce qui a pris du temps. Si ça allait si bien que ça, si à l'époque de M. Hamad, ça allait si bien que ça, pourquoi on n'en a pas de projet structurant? Pourquoi on n'en a pas de SRB? Parce qu'il était là, lui, à cette époque-là, il aurait pu le construire. Or, les échos qu'on a, c'est non, pas tant que ça, finalement. Il n'était pas si intéressé que ça. Pourquoi de projet structurant, avant que moi j'arrive, là, les gens n'aiment pas le tramway, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui en a bâti un métro, un SRB, des SRB? Pourquoi ça allait si bien que ça? Puis tout le monde naviguait dans un seul courant, là, puis on était tous d'accord. Là. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'il y avait des débats. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui sont contre. Puis il y avait des gens qui niaisaient avec le POC. Puis il y avait des différents paliers de gouvernement qui ne s'entendaient pas. Puis des fois, il y avait deux qui s'entendaient, puis le troisième ne s'entendait pas. C'est facile de romancer le passé. Là. C'est facile de romancer le passé.
Monsieur le maire, j'aimerais...
C'est facile de vouloir de dire en arrière, avant, c'était mieux.
Mais,
c'est très facile.
Mais c'est comme s'il niait le présent, parce que ce type de projet-là, de transport structurant, il se l'est fait prendre par la CAQ. Il n'est plus responsable de ça. Alors que quand Hamad était là, quand le maire Labeaume était là, c'était eux qui étaient responsables du transport en commun, puis ils avaient tenté d'élaborer... Bon, au départ, avec Labeaume, c'était le fameux SRB. Finalement, ça a été transformé suite à un appel de... Je me rappelle pas le gars qui était pour le Parti libéral, qui était leader en chambre, qui était dans le comté de Jean Talon. Bref, ça va me revenir, là, mais c'est lui qui avait appelé le maire de l'époque en disant, Monsieur le maire, c'est parce que Philippe Couillard, je viens de jaser avec Proulx, Sébastien Proulx.
Sébastien
Donc, je viens de jaser avec Philippe Couillard, puis on aurait peut-être un projet pour vous. Et c'est là, c'est durant cet appel-là que le fameux tramway est né et le CRB
mais
avait
pas juste
été
ça,
tué.
C'est un projet municipal. Sa maman n'était pas sur le palier. C'est pas le projet d'un homme de toute manière. Il pouvait représenter quand même Québec, mais...
Le point de base, je l'haïs pas, par exemple, parce que c'est vrai qu'on romancise énormément le passé, puis Bruno Marchand doit être écœuré d'entendre parler des belles années Labeaume puis des belles années de collaboration avec des acteurs qui semblaient plus puissants dans la région de Québec que ceux qu'on a actuellement. Les Deltel, les Agnès Maltais, les Sam Hamad versus les Jonathan Julien.
Mais la fin de Labeaume, je veux dire, il n'y avait rien de beau, je m'excuse, là, puis j'y dirais en face.
Ouais.
Là.
Mais Labeaume s'est jamais fait enlever aucun dossier, tandis que le maire s'est fait enlever... tous les dossiers d'importance pour la ville de Québec. Mais la fougue et la rigueur
qu'il avait auprès de d'autres politiciens, il était devenu désagréable avec même ses citoyens et ses électeurs à la fin.
Mais il était responsable des dossiers.
Oui, mais dans les premières années, la bombe, c'est, puis si on veut enlever le romantisme, c'est son taux de popularité excessivement élevé qui forçait peut-être plus la main aux autres politiciens que cette belle collaboration qu'on avait dans la région de Québec des différents paliers. T'sais. C'était lui qui menait le show, il savait, puis il laissait pas beaucoup de marge de manœuvre.
Hey, la bombe a pogné pendant son mandat là, un 80% de taux de satisfaction des gens de Québec, et je pense pas que ça se soit vu dans le temps du maire Lallier. Est-ce qu'il a été visé, Bruno Marchand? Parce que, tu sais, on parlait de la bombe. Dans les dernières années de la bombe, là, on se rendait compte du côté de la CAQ qu'on n'avait plus besoin de la bombe pour se faire élire dans la région de Québec. Puis,
L'étoile avait pâli aussi. Là.
L'étoile avait pâli. C'est-tu la même chose avec Bruno Marchand? Y a-tu été visé?
C'est dur d'interpréter. Moi, j'ai l'impression qu'il est prêt à défendre ces quatre dernières années, même si ça a été des années difficiles, dans un contexte difficile. Il n'y a pas de l'air d'un gars qui va virer le volant. Tu sais, s'ajuster parce qu'on s'en va en campagne électorale, mettre de l'eau dans son vin sur les affaires qu'il a mis en place, c'est pas ce que j'ai perçu hier, pantoute. Je pense qu'il est prêt pour les débats. Il est prêt pour un one-on-one. Il a avoué hier que c'était une lutte à deux. Là. Je pense pas qu'il va s'occuper beaucoup de Mme Smith, de M. Villeneuve et ainsi de suite.
Stéphane Lachance.
Stéphane Lachance, oui, puis les autres. J'ai l'impression vraiment qu'il voit Sam Ahmad comme son principal adversaire. Puis je pense qu'il a hâte de faire des face-à-face.
Alors, avez-vous ce qui se passe avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont?
Celui avec des écureuils qui mangent des murs, là. Oui, on l'a vu.
Tu fais opérer, puis un castor qui passe.
Ouais, c'est
génial.
C'est
ça donne le goût, hein?
C'est accueillant.
Non, mais on l'a vu, là. Paul Arcand a résumé ça dans un article en fin de semaine, je pense que c'est samedi dans la presse. Tabarouette, t'as l'impression d'être dans le tiers-monde, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ils ont entendu André Laforêt quand elle a parlé de son autoroute de mémoire, c'est entre Alma puis Chicoutimi.
Ouais, tout le monde en a perdu.
Hein, puis qu'elle a dit, je pensais que c'était un poisson d'avril, là. C'était pas tendre envers son gouvernement. Fait que, le Bas-Saint-Laurent, ils ont entendu le Bas-Saint-Laurent. Tout le monde en a perdu.
OK.
Le gouvernement du Québec n'a pas visé la région en disant « eux autres, je vais être punis ». Ça n'a pas rapport.
OK. Donc, ce que Bruno Marchand dit, c'est que ce n'est pas une affaire personnelle à son égard quand la CAQ enlève tout pour la ville de Québec.
J'ai été surpris de cette réponse-là parce que n'importe qui est maire, dans ma tête, aurait saisi l'opportunité de dire « ouais, je pense qu'on a un traitement de défaveur, puis il va falloir aller au BAT pour retrouver nos projets puis retrouver nos affaires ».
C'est là que j'aurais été, moi.
Mais on dirait que Marchand a choisi son camp pour la prochaine campagne électorale. Je pense que le populisme de Sam Ahmad, il aime pas ça. Puis il s'est dit, moi, j'en ferai pas. Je vais essayer de dire ce que je pense. Puis si le monde, ils reçoivent pas ma vérité, ben tout bad, je serai plus maire puis je vais passer à autre chose. Parce que c'était une porte ouverte, là, cette question-là sur la région de Québec. Puis il y a plein de monde qui sentent qu'on a un traitement de défaveur, que ce soit vrai ou pas. Mais le maire de la ville, il nous dit, tout le monde a perdu égal puis on n'a pas eu un traitement de défaveur. C'est-tu pour peut-être se laver les mains d'un conflit qui perdure entre le maire puis le gouvernement qui fait en sorte qu'on écope dans la région de Québec? Peut-être. Ou il a juste essayé de replacer la ligne où lui, la voit qu'il a raison ou pas. Là.
J'ai la prétention de croire qu'au courant des prochains jours, prochaines semaines, on va sentir encore plus que Bruno Marchand se dit « j'ai plus rien à perdre ». Officiellement, j'ai un adversaire qui est assez redoutable, qui est bien connu, qui a fait de la politique. Quand on regarde les sondages, il y en a beaucoup qui voteraient déjà pour lui quand il n'a pas annoncé grand-chose. Donc, j'ai plus rien à perdre, pourquoi pas le jouer franc jeu. Est-ce que ce sera la première fois qu'on va voir justement un petit peu plus d'honnêteté dans certaines des paroles? Peut-être, mais au courant des prochaines semaines, c'est ma prétention.
Moi, ce que j'aime, là, c'est que ces deux visions qui se ressemblent pas pantoute, puis ces deux visions de plus en plus claires. Il y a un choix à faire. Ça, moi, ça me rassure.
Est-ce qu'il y a... vous avez jasé du troisième lien?
Oui.
Claude Villeneuve a semblé plus ouvert envers le troisième lien, ce qui me laisse présager qu'il continue de vouloir se distancer du maire Marchand, parce que les gens disaient, OK, t'es dans le groupe de l'opposition, mais t'es pas mal tout le temps d'accord avec la mairie en place, ainsi que les conseillers qui sont dans l'équipe de la mairie. Lui, est-ce qu'il a essayé de faire son Claude Villeneuve, puis se dire que finalement, le troisième lien, c'était pas si pire que ça?
Ça, c'est un bel avantage quand on reçoit quelqu'un souvent. Puis en recevant Bruno Marchand une fois par mois, on peut se permettre de reposer la même question 3-4 fois pour voir si la réponse change. Puis Sam Ahmad, très clairement, veut travailler pour faire avancer le troisième lien à Québec. Claude Villeneuve, dans les jours qui ont suivi, a dit « Ouais, moi aussi, je suis pour le troisième lien. Condition 1, condition 2, condition 3. » Le maire Marchand, hier, a répété pas mal la même réponse qu'il m'a donnée à cette question-là avant que sa maman arrive en campagne puis avant que Claude Villeneuve fasse sa sortie.
Tant qu'il soit... Oui, ce qu'on attend, c'est qu'il soit proposé. S'il est bon pour les gens de Québec, pourquoi pas? Je vous l'ai déjà dit. Qu'on me fasse la démonstration qu'il ne crée pas de la congestion. C'est ça que la démonstration qu'on attend. Si on fait débarquer un troisième lien ici sur Laurentien puis qu'il crée de la congestion... Vous allez être les premiers à chialer, puis moi, je vais être d'accord avec vous.
Vous n'avez pas le goût d'être autour de la table pendant qu'on discute de ça, avant que quelqu'un vous arrive avec quelque chose?
Bien, ça, c'est la façon de faire de la ministre qui travaille avec ses fonctionnaires. On va la laisser travailler, elle va nous présenter ça, puis on va l'évaluer.
D'un autre côté, elle demande au candidat à la mairie de s'engager pour un troisième lien puis un tramway. De votre côté, vous pourriez faire une demande de ce type-là de très rapidement. Voici ce que nous, on attend pour appuyer un projet de troisième lien.
Ça, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit ça, c'est très clair, je l'ai dit depuis le début. Une des conditions, c'est que ça améliore la situation de la fluidité.
Une petite gauche à Geneviève Guilbeault?
Oui, bien senti. Genre, pour travailler en équipe, il faut que des gens veuillent travailler en équipe.
Mais élégante! Ouais. C'était élégant, ma manière de le faire.
C'était bien senti.
Mais ce qui me fait halluciner, c'est qu'ils sont incapables de réaliser que Québec est en droit d'avoir un autre lié à l'est de Québec, ce qui fait en sorte qu'on va se libérer du fameux fer à cheval. À partir du moment où le problème, c'est la congestion au pont, t'as pas d'autre alternative que d'attendre. Mm-hmm. T'en as pas d'autre. Il y en a qui vont dire « Wow, mais t'as juste à prendre la traverse Québec-Lévis, ça, c'est quand les gars sont pas en grève. » Mais sinon, ça nous prend un troisième lien, l'autre côté. Donc, si ça passe pas par là, ça peut passer par l'autre bord. Toutes les villes de ce monde ont justement un pont qui va te permettre de faire un détour si jamais cet endroit-là est hyper contingenté. Puis, on dirait que autres, non, mais ça va nous prendre des experts là, qui vont se pencher là-dessus, qui vont nous dire que ça n'augmentera pas la circulation. C'est bien sûr que si on fait un autre autoroute à côté de l'autre, puis on fait un autre pont à côté des deux autres, il va y avoir une augmentation dans ce secteur-là. Mais si tu l'envoies à l'autre côté, ça va juste être une voie de contournement quand il va y avoir des problématiques à Québec.
Faudra surveiller dans la campagne électorale, comment le gouvernement de la CAQ va se placer? Parce que hier, Yann, tu sais, quand tu parles 40 minutes dans une entrevue, c'est pas toutes des questions tough à répondre. Tu sais, une fois de temps en temps, t'envoies ce que j'appelle des softballs. Tu sais, celle-là, c'est une question facile. T'as juste à swinguer le bat, à répondre puis sortir la balle du stade. Tu sais, par exemple, Sam Hamad dénonce un manque de leadership.
Oui.
Le voyez-vous, le manque de leadership, vous, à l'étage du provincial, à l'étage du fédéral, les leaders de la région, puis ainsi de suite? C'est une question que j'ai posée à Bruno Marchand hier.
Qu'est-ce
je l'ai trouvé excessivement prudent envers le gouvernement de la CAQ. À l'exception de la petite droite qui a envoyé à la vice-première ministre.
C'est une gauche.
Oui, c'était peut-être plus de la gauche que de la droite, effectivement, bien vu. Mais Je l'ai tellement trouvé prudent que je me suis posé la question « Comment ce gouvernement-là va intervenir pendant la campagne électorale? » Puis on ne se le cachera pas, ils ont commencé à le faire. Ce que Geneviève Guilbeault a dit sur les pénalités sur le tramway, c'est une flèche envoyée à Sam Hamad.
Oui.
Y a-tu des choses qui sont entendues entre le gouvernement de la CAQ et la Ville de Québec, que ce soit pendant la campagne électorale, que ce soit des annonces conjointes qui s'en viennent? Je veux pas devenir un conspirationniste, là, c'est vraiment pas mon objectif de vie, mais je trouve que Bruno Marchand est tellement prudent à l'égard des gouvernements, alors qu'il manque pas de munitions dans son gun, à mon humble avis, pour, par exemple, dénoncer le manque de pouvoir de Jonathan Julien. Dénoncer le fait que Geneviève Guilbeault s'occupe pas de la région tant que ça, le fait que le gouvernement est pas mal plus montréaliste que pour la région de Québec. Okay. Puis
moi, je le vois différemment. Je le vois dans une position de faiblesse où il n'y a pas le choix d'attendre de voir ce que la CAQ va faire.
Il n'y a pas le choix de jouer doux, tu penses?
Ben, moi, c'est l'impression que j'ai. Puis quand on parle de leadership, le maire Labeaume, bien que je ne me serais jamais entendu avec cet individu-là, faisait peur à la CAQ.
Oui, absolument.
Si Labeaume sortait pour faire une conférence de presse qui était extrêmement négative à l'égard de la CAQ, ça leur faisait énormément mal. Puis là, François Legault est obligé de sortir... Mais si Bruno Marchand dit quelque chose aujourd'hui concernant la CAQ, François il sortira pas aujourd'hui. Tandis qu'avec Labeaume, il n'y avait pas le choix de sortir. Ça résonnait. Là.
Et dans le cas de Bruno Marchand, le gouvernement a voulu très rapidement, je pense, lui couper l'herbe sous le pied parce qu'ils se sont dit « Hey, on laissera pas un autre Labeaume se bâtir à Québec. » Rappelle-toi la campagne électorale puis les jours suivant la victoire de Bruno Marchand. Il y avait un petit buzz, là. Il y avait un boss qui se créait. La première conversation qui est venue donner ici, là, il a été charmant. Les gens réagissaient. Tabarnouche, un peu de jeunesse, ça va faire du bien, et ainsi de suite. Ça n'a pas duré, mais le gouvernement, très, très vite, s'est braqué. Puis moi, j'ai l'impression qu'on s'est dit, regarde, on se fera pas faire ce qu'on s'est fait faire à Québec, se faire forcer à main pour donner de l'argent quand c'est pas ici qu'on va donner, c'est à Montréal. On va mettre des ministres qui sont des pions puis des porte-parole pour le premier ministre, puis on laissera pas ça aller. On va lui enlever un projet important, par exemple. On négociera pas avec. On va tenir la ligne dure. Ça fait partie de ce qu'on a eu dans les quatre dernières années aussi.
T'es revenu avec l'interdiction des feux de foyer. Ben... J'ai adoré. Puis on écoute Bruno Marchand, puis tu nous diras ta pensée par la suite.
Ben moi, je suis tout à fait d'avis que les gens font plus l'amour depuis qu'on a mis des interdictions de feux de foyer. Hein. C'est les... Non, mais le nombre de relations sexuelles a diminué dans les couples. Non, mais à un moment donné, regarde bien, là, on n'a pas interdit les feux de foyer. Là. Tout ce qu'on a demandé aux gens, c'est que les gens qui se chauffent avec un poêle, d'avoir un poêle qui est certifié. Tu peux encore le faire. Puis là, l'extrait d'après, c'est peut-être qu'il va dire, s'il arrive un duvercle, qu'est-ce qui arrive? Les gens ont encore le droit de se chauffer avec des poêles à bois. Puis on demande aux gens d'avoir un poêle certifié. Puis les feux de foyer, il y a des interdictions occasionnelles. Puis pourquoi on fait tout ça? C'est parce que l'Institut de la santé publique dit qu'il y a 100 décès prématurés par année par les particuliers.
Ça, c'est challengé en cours, soit dit en passant. Oui. Il y a des citoyens, c'est trois citoyens qui ont décidé de challenger ça.
Il dit qu'il n'a pas peur du recours collectif.
Ben, c'est parce qu'il va devoir prouver qu'il y a bel et bien 100 personnes qui meurent en raison des feux de foyer à Québec. Et c'est là que tout ça va tomber, parce que ce n'est que des hypothèses.
C'est un argument qui est très mal reçu. Je regardais les textos rentrer, mais on a terminé cette conversation-là parce que je lui faisais entendre des extraits de sa mamade de l'entrevue qu'il a faite la semaine dernière. Puis c'était drôle de voir les yeux du maire. Quand sa maman a dit que la taxe au chat c'était de la bullshit, là, j'ai vu beaucoup de dureté dans le regard du maire Marchand. J'étais curieux de voir si la poker face allait tomber, puis je te confirme qu'elle a tombé une couple de fois. Puis concernant les feux de foyer, vu qu'il a commencé en faisant des blagues là, que justement, là, pas de feu de foyer, pas de tendresse, pas de sexe, et ainsi de suite, ben j'ai dit au pire, là, mettons que ça fait 100 morts, là, ben vu qu'on baise en avant du foyer, ben on peut faire au moins 100 naissances, ça doit s'égaliser
c'est
à quelque part.
Tu coupes un arbre, ça plante un autre.
Ben oui, c'était son argument à lui. Là, fait que...
On revient sur la taxe au chat. On revient sur la taxe au chat.
La taxe au chat pour ou contre?
La taxe au chat, c'est la bullshit.
Alors, M. Hamad dit, moi, je vais gérer les finances publiques. Donc, ça veut dire quoi? Il enlève la taxe au chat, il prend où?
Bullshit, moi, je dirais qu'il l'enlève, la taxe au chat. Ouais.
Ça veut dire quoi? Il prend dans vos taxes à vous. Il prend dans les taxes de tous les citoyens, il faut qu'il paye. On a des frais, il faut les payer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, gardez, je vais faire quelque chose de bien, bien populiste. Là. Hey, la taxe au chat, il n'y en aura plus. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que je vais le payer avec votre compte de taxes.
Dans le fond, sa maman dit ce qu'il va faire, c'est exactement ce que le maire Marchand fait, c'est-à-dire piger dans vos poches.
Écoute, il va nous proposer ses solutions. Je te dis que ça va être le fun, cette campagne-là. C'est déjà le fun. Ouais.
Tu as-tu posé des questions à savoir où est-ce qu'il pourrait peut-être couper des prochaines années pour essayer de faire en sorte que les prochains comptes de taxes pour les citoyens de Québec, qui sont déjà les citoyens les plus surtaxés, si on prend tous les paliers d'imposition, puis l'essence aussi et tout ça, tu as-tu posé des questions par rapport à ça? Ces prochains budgets, il va couper à quel endroit?
J'ai pas senti une grande intention à ce niveau-là. Au contraire, il dit que le fait que la hausse des maisons, oui, ça fait en sorte que les taxes montent, mais ça fait aussi que tu as une meilleure valeur et ainsi de suite.
Mais t'as-tu senti une amélioration avec la hausse de mes taxes, moi, là que j'ai envoyée à la ville? T'as-tu senti une amélioration au niveau de nos infrastructures?
Non.
Non, non.
C'est un peu
personne,
tôt, par exemple.
Personne ne l'a senti. Mm. Puis on n'a pas l'impression que ça s'améliore. Peut-être dans 4 ans, on verra tous ces impacts-là. Mais moi, la ville juge que ma maison a pris 150 000. Là, je regarde ma maison, c'est le même bois, OK, c'est beau.
Pas là, fait trop de travaux chez vous.
Non, puis là, mes taxes municipales augmentent, ce qui fait en sorte que je leur envoie encore plus d'argent. Mais est-ce que j'ai un retour, moi, sur mon investissement? Parce que c'est la ville qui a décidé que ma maison venait de prendre 150 000.
Ouais. Mais la réponse, c'était dans le début de la conversation, parce qu'hier, c'était les annonces des parcs. Là. On donne de l'amour aux parcs, les terrains de soccer, les terrains de baseball, les patinoires réfrigérées, et ainsi de suite, un 72 millions. Il a commencé l'entrevue en disant ça. Il dit ça, c'est l'argent qu'on ramasse, c'est votre argent qu'on essaye de mettre à contribution. On se le fait dire, tu sais, que les parcs ont besoin d'amour, puis tout ça. J'ai dit, tabarnouche, je regarde les pistes de vélo de montagne, vous êtes en train de transformer tous les parcs en marmottas géantes. Il a pas trouvé ça drôle.
OK, on retourne sur sa fameuse stratégie de taxation aux mains marchands.
Je termine avec une dernière chose sur la question de la taxation. N'oubliez pas que la Ville de Québec est la ville où ça coûte le moins cher à plusieurs égards. Les programmes vacances-été, quand on dit qu'on est le paradis des familles...
Vous parlez des inscriptions, ouais, quand ils vont débuter cet après-midi. Là.
C'est la moitié prix de ce que ça coûte à Lévis. C'est la moitié prix de ce que ça coûte dans plein de villes. Donc, juste en une semaine, la taxe sur l'immatriculation est couverte parce qu'ici, s'inscrire dans un programme vacances-été, ça coûte moins cher qu'à Lévis. Ça coûte moins cher qu'ailleurs. Les activités gratuites, il y en a plus ici qu'ailleurs. Les bases de plein air gratuites, on travaille pour les familles. On travaille pour les familles et on travaille à faire en sorte que le niveau de vie soit le moins cher possible pour que ces gens-là puissent avoir des activités avec leurs enfants. Et ça, les gens n'en parlent jamais. Mais c'est énorme ce qu'on a fait pour faire en sorte de retourner de l'argent aux familles. Et ce qu'on a fait, ce que d'autres villes n'ont pas fait, c'est pour ça qu'on est la meilleure des plus grandes villes au Québec. C'est l'équivalent de 400 millions qu'on a laissé dans les poches des citoyens.
J'ai un peu de doute sur ce qu'il vient de dire. De un, il est en train de mélanger la taxe à l'immatriculation au fait que si tu as des enfants, tu les envoies au parc. Il y a un programme qui est pour ça. Fait que là, ta taxe est payée. Mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui envoie ses enfants au parc.
Comment ça a été d'ailleurs hier? Je veux juste savoir pour les gens qui se sont essayés avec le nouveau système à la semaine.
Oui.
Tout le monde s'est-tu retrouvé le bec à l'eau comme si c'était les billets du festival d'été ou ça a bien été juste pour le fun?
Non, mais juste à dire, parce que ce gars-là est un fin manipulateur au niveau des communications. Là. Il parle de la taxe sur l'immatriculation qui est supposée d'aller au RTC, soit dit en passant. Puis il dit la taxe sur l'immatriculation va être repayée avec les programmes que nous autres on fait pour les familles. Tu sais, il essaie de t'attendrir. Mais concrètement, là, moi, là, j'envoie pas mes enfants au parc. Je les envoie dans un parc privé. Je l'ai pas, le remboursement. Il y a des gens ici à la station, des gens qui nous écoutent, là, qui n'ont pas d'enfants au parc, mais qui payent la taxe à l'immatriculation. Ils ne voient pas de retour sur leur investissement. C'est un fin communicateur, le maire Marchand. Il est à watcher constamment. Mais de comparer la taxe à l'immatriculation avec le fait qu'on est capable d'envoyer nos enfants au parc à bon prix, contrairement à Lévis, exemple, où les taxes sont moins élevées, mais c'est un fin manipulateur. Il faut le watcher constamment.
Moi, j'ai hâte de voir le one-on-one. J'ai très, très hâte de voir. Le maire Marchand nous rappelait qu'il avait fait, lors de la dernière campagne électorale, 14 débats. Puis c'est peut-être là-dedans qu'il a été le meilleur, justement. Parce que dans cet environnement-là, puis je l'ai senti hier, la compétition est embarquée sur la glace. Là. Le ton a changé. Les explications sont meilleures.
J'ai des réponses pour toi, Denis. Très tough hier soir, mais on a eu notre place, mes amis aussi. Je connais personne qui n'a pas eu sa place. Tout le monde a bogué. Par contre, il a dit Lévis, mais à Lévis, on adore notre mère. Bon, OK, ça, c'est un autre commentaire. Mais ça, c'est ça. Ça semblerait que ça a été très tough.
Tant mieux. Ben, tant mieux si vous avez eu vos places. C'est le système à la semaine. Maintenant, à Québec, puis ça a l'air, ça a réglé quelques problèmes depuis 2 ans que je me suis fait dire.
Okay. Denis Gravel, je te souhaite de passer une belle après-midi. On t'écoute à 14h tantôt. Qui vous recevez aujourd'hui?
Aujourd'hui, ouais, on prend congé. Là,
Véronique Bergeron.
J'ai plus le temps de jaser aux filles. À un moment donné, il faut se parler.
Tu vas le savoir tantôt.
Ouais, en fait, j'en ai aucune. C'est la vérité, c'est que j'en ai aucune colise.
Ils vont te le dire tantôt.
On vient. Rage against the mat. All right, bon mardi tout le monde, c'est nuageux pour aujourd'hui, c'est de la pluie aujourd'hui et ce soir, c'est ce qu'on nous mentionne, 5 mm pour ce soir. Le retour du beau temps pour la grande région de Québec, ce serait prévu pour jeudi. Donc, pour ce qui est de demain, ce sera encore une fois de la pluie, maximum de 6. Jeudi, ciel dégagé, maximum de 7 degrés. Et vendredi, des nuages avec un maximum de 11. On lâche pas. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. J'ai les commentaires aussi. Ça fonctionne par texto. Les prochaines secondes ou les prochaines minutes, Pascal, je me gâte.
Fait longtemps que tu voulais l'avoir, hein?
Moi, je suis un auditeur de radio qui trippe sur les grosses voix graves et quand j'entendais, bon, ça le rajeunira pas, là, mais quand j'entendais cet homme-là sur les ondes de radio, chaque fois, je me disais « Un jour, j'espère avoir sa voix de radio. » C'est Jean-François Dumas d'Influence Communication. Salut, Jean-François.
Salut. Ça va bien, vous autres?
Ben oui, ça va bien. T'es à la tête d'Influence Communication depuis combien d'années, Jean-François?
Ça fait de... Ça va faire 24 ans à l'automne. Hey. Et donc, je veux dire, moi, j'ai parti ça en 2001. Je savais pas que c'était impossible et que ça pouvait pas marcher. Personne me l'a dit. Fait que je l'ai fait, puis ça a marché. Alors, j'ai fait de la radio pendant bien des années, mais comme comme bien du monde, à un moment donné, tu réalises que c'est. Il y avait plein de gens qui avaient plus de talent que moi pour continuer de faire de la radio, mais comme les médias me passionnaient, j'ai décidé de partir une business en marge des médias, donc qui analyse. À défaut de pouvoir travailler dans les médias, je me suis dit, je vais au moins pouvoir observer, analyser et critiquer le travail des médias. Et c'est ce que j'ai fait.
Mais depuis 2020, depuis 2000, que tu es chez Influence Communication, tu as parti cette belle entreprise-là. Fait que tu as connu les mauvaises années du Canadien de Montréal comme moi. Là. Ce qui arrive là actuellement, c'est du bonbon pour les fans du Canadien avec Demidov qui arrive, là, qui marque l'histoire. Là. Son premier match décide un but, une passe. Le jeune de 19 ans, on le voit déjà comme une superstar. Tout le monde en parle à la grandeur du Canada. Je sais pas si on en a parlé aux États-Unis, mais on a écrit des journaux, là.
Ah oui, oui, écoute, ça a passé la gratte partout. Abondamment, on a accordé, évidemment, depuis hier, beaucoup d'espace à la performance de Demidov, pas mal moins à celle du Canadien. Mais ce qui est fascinant, c'est que, écoute bien ça, lorsqu'on a appris qu'il avait signé un contrat qui avait d'abord été libéré de son équipe à Saint-Pétersbourg, le SKA, et que le Canadien l'avait signé, dans les 48 heures qui ont suivi cette annonce-là,
ouais.
Juste au Québec, pas en Amérique du Nord ou partout dans le monde, juste au Québec, pendant 48 heures, sur le web et dans les journaux, on a publié le 411 articles. Ça, c'est l'équivalent. C'est comme si on pouvait, comme si on voulait remplir le Journal de Québec d'un couvert à l'autre pendant 7 jours. Donc, on rentre. Ouais. C'est 411 articles. Ça, c'est juste les journaux et le web. À ça, tu ajoutes la radio-télé. On a répété le nom de Demidov pendant 48 heures, 720 fois. Et si on prend tout ça, puis on met ça sur un Blu-ray, USB, appelle-le comme tu veux, on pourrait, toi et moi, s'installer avec un gros plat de popcorn et réécouter toutes les mentions du nom de Demidov 24 heures par jour, pendant 24 heures, sans arrêt, pendant 17 heures.
Puis à ton souvenir, à Montréal, c'est pas arrivé souvent, là, ce genre d'événement-là.
Ça me fait penser, je te dirais, en termes de volume, d'intensité de couverture, quand on pense au sport, une des plus grosses nouvelles du Canadien depuis 20 ans, ça a été le décès de Jean Béliveau. Le décès de Guy Lafleur est comparable à ça. Donc, c'est des grosses, grosses, grosses nouvelles. Le Canadien, c'est une machine à éclipse médiatique. Puis nous, dans ce temps-là, on se vire de bord, puis on le fait systématiquement. On appelle nos clients, puis on dit « Hey! » It's a good day for bad news. Si tu veux annoncer des mauvaises nouvelles, c'est le temps aujourd'hui parce que les médias, ils n'en parleront pas.
Est-ce
c'est
y a,
un petit peu ça qui est arrivé.
Y adhères-tu à ça? Parce que nous, on en parle en riant, en disant, bon, en politique, s'il y a un événement ou une nouvelle loi ou quelque chose qui se passe, annoncez-le aujourd'hui. On en rit en onde. Mais est-ce que vos clients chez Influence Communication s'agrippent à ça?
Ben, c'est à ça qu'il sert, Jeff.
Ben, écoute, même sous la torture, je ne dirais pas qu'il l'a fait. Mais je te dis que oui, il y a des clients qui le font. À chaque fois, il y en a qui le font. Ça peut être des grosses nouvelles, des petites, des moyennes nouvelles.
Si je te fais des
on
beaux
essaie
yeux.
De camoufler la médiatisation, de minimiser le plus possible la médiatisation parce qu'on se cache derrière une grosse nouvelle. Et les gens qui disent que c'est pas honnête de faire ça, c'est du grand n'importe quoi parce que le journal La Presse, le journal Le Soleil, le journal Le Québec, peu importe, un quotidien qui a une grosse nouvelle en plein milieu de la semaine de la construction... brûlera pas sa nouvelle si c'est un peu intemporel. Ils vont se dire, on va attendre une couple de jours que les gens reviennent. Mm-hmm. On ne scrapera pas une nouvelle en plein milieu de nulle part parce qu'on a la nouvelle, il faut la sortir. Donc, de savoir jouer avec le trafic d'informations puis de pouvoir s'adapter à la périodicité, s'adapter au moment où quand ça arrive dans l'année, c'est de comprendre comment ça marche les médias. Donc, les gens qui communiquent ne sont pas plus menteurs ou crosseurs que les médias. C'est juste de savoir comment ça marche. Mais nous, comme citoyens, c'est également important de savoir que ça existe et que c'est comme ça que ça fonctionne.
Est-ce que c'est toi qui envoies le signal à tes clients comme quoi c'est une belle journée pour annoncer une bonne nouvelle et c'est une belle journée pour annoncer une très mauvaise nouvelle?
C'est oui, généralement, c'est l'équipe de service clientèle chez nous qui communique. On a comme à nous à l'interne, on dit OK, on appelle nos clients, c'est un bon moment. C'est comme les courtiers immobiliers qui disent « c'est le temps, vends tes actions ». Bon, ben là, c'est le temps aujourd'hui, vends ta nouvelle, personne ne va en parler. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va de l'avant et on communique directement avec les clients qu'on pense pour qui ça pourrait être utile. Et ça marche. La plupart, beaucoup de clients à chaque fois à peu près utilisent ce genre de méthode-là parce que On veut réduire des emplois, on veut annoncer une nouvelle qui va être un peu impopulaire. Le gouvernement peut faire des annonces, des nominations impopulaires. Tu sais, quand le gouvernement fait des annonces, il veut nommer quelqu'un qui va être un peu... qui sera pas très, très, très populaire. Et qu'on annonce ça à la veille du temps des fêtes, près de Noël, parce qu'on sait qu'à rendu après les fêtes, il n'y a personne qui va vouloir en parler. Même les gens vont l'avoir oublié. Donc, ce genre d'approche-là, c'est payant. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Avec ton entreprise Influence Communication, es-tu capable de mesurer une campagne publicitaire? Exemple, là, ce qui pogne bien gros ces temps-ci, là, c'est le fameux Mike chez Rona. Oui. La fameuse toune « Mike chez Rona ». Désolé pour les gens qui vont l'avoir dans la tête pour les prochaines heures. Mais est-ce que tu es capable de prendre toutes les fois où cette campagne publicitaire-là, ben, cette publicité-là a passé, puis dire aux gens « Voici votre impact ». À toutes les fois qu'on a parlé de ça à la radio, parce que je sais que nous, ici à la station, cette fameuse campagne-là, on en a jasé. Puis en plus, on a invité le chanteur qui est dans la publicité.
C'est un gars de Québec. Ouais,
fait que toi, t'es capable, avec tes outils puis avec tes auditeurs, t'es capable de mesurer la force d'une campagne.
Je te dirais aussi, par exemple, mettons que Pascal et toi, vous vous poursuivez puis vous dites des niaiseries en ondes. Puis là, on veut évaluer combien ça vaut la diffamation que tu as fait sur Pascal. Et donc, on est capable, nous, d'évaluer en termes d'équivalence publicitaire, par exemple, combien ça vaudrait. On n'a jamais été mandaté pour faire le genre de job dont tu me parles pour Rona, mais on a déjà fait des analyses un peu flyées. Par exemple, à un moment donné, on a analysé les journées où on sac le plus à la radio.
Il doit y avoir un peu de politique là-dedans, là.
Je te dirais, si je me souviens bien, oui, il y avait de la politique, puis je pense que le jeudi, c'était une des pires journées, et la région de Québec était une des journées. Puis là, sacré, là, c'est pas juste des gros sacs, ça peut être des locutions genre de quelqu'un qui va prendre un sac, mais qui va en faire un verbe, qui va construire une phrase autour de ça. Des fois, ça peut être juste des Moses puis des maudits. On a pris toutes les interjections, puis tous les sacs possibles, les petits, les moyens, les gros. Et on a fait une analyse pour déterminer, juste pour le fun, c'était quoi les journées où on sacrait le plus, c'était quoi l'heure de la journée. C'était en après-midi où on sacre le plus. Je pense que c'était le jeudi, si ma mémoire est bonne.
Les gens sont fatigués de leur semaine, la fin de la journée, puis surtout les équipes du retour. Donc, on va mettre ça sur le dos à Denis Gravel. Mais pour la diffamation, je retiens vos services disponibles si jamais...
mais peut-être le jeudi aussi.
Pas cher.
Ouais, peut-être le jeudi, c'est parce que les animateurs de Radio à Québec sont payés aux deux semaines. Fait que t'as peut-être pogné les jeudis où on n'avait pas notre paye.
Ah. Ouais, j'ai peut-être pogné la mauvaise semaine.
C'est ça. Hey, tu suis très attentivement avec ton entreprise les politiciens, les partis politiques. La campagne politique, tu n'as pas le choix de la suivre aussi. Est-ce qu'il y a des chiffres qui t'impressionnent dans cette campagne politique-là, que ce soit au fédéral ou encore même ce qui s'est passé avec Donald Trump l'autre bord? Là, tu regardes ça pas mal?
Ben c'est sûr que oui, d'abord oui, on subit ça de très près parce que ça, d'abord c'est intéressant, mais aussi parce que ça fait tellement, c'est une énorme éclipse médiatique la campagne électorale et ça fait ombrage à tout le reste. Alors c'est sûr qu'on y accorde beaucoup d'attention. Ce qui me frappe, ce qui me déçoit, m'étonne et ce qui détonne beaucoup de plus en plus à chaque campagne, c'est que ce sont de moins en moins des campagnes de candidats. On n'en parle plus des candidats. Si t'es un candidat dans le coin de Limoilou, il va falloir que tu travailles fort pour être dans le Kodak. Et juste pour rappeler aux gens qu'essentiellement, la politique, on vit ça par procuration à travers vous autres, les médias. Parce que moi, le premier, je rencontre à peu près jamais de candidats chez nous. Ils ne viennent jamais sonner à la porte quand je suis là. Ça fait que je les vois jamais. Tout ce que je vois de la politique, c'est ce qu'il y a à la télé, à la radio, dans les journaux, sur le web. Et malheureusement, les grands médias, pour deux raisons. D'abord, par paresse, et aussi parce que dans les régions, il y a de moins en moins de médias, il y a de moins en moins de journalistes, il y a de moins en moins de représentativité médiatique. Donc, l'ensemble des régions au Québec, depuis 20 ans, ont perdu près de 90 % de leur poids. On est en train de McDonaldiser l'information de Gaspé à Gatineau, ça a même aux yeux de nouvelles, comme s'il n'y avait plus de particularité régionale. Et l'impact de ça dans la campagne électorale, c'est qu'on s'intéresse juste aux chefs. On s'intéresse juste aux grands chefs et les candidats dans les régions, patate, ils n'ont aucun espèce d'intérêt pour ça. Ça fait que ce que ça fait, c'est que 98 % de la campagne actuellement, c'est les chefs. Le 2 % qui reste essentiellement, c'est les 5-6 exclus, ceux qui ont été morpionnisés et qui se sont fait exclure de leur parti respectif. Donc, Joe Boitelunge, dans son, à Rivière-du-Loup ou dans n'importe quelle circonscription au Québec ou au Canada, ne génère absolument aucune espèce d'intérêt pour le monde. Et, encore une fois, les gens qui nous écoutent pensent que si tu n'es pas dans le Kodak, tu n'existes pas. Et c'est un peu ça. Donc, ça c'est un drame qu'on vit campagne après campagne. Les gens, les candidats régionaux disparaissent. Tout ce qui leur reste, c'est des poignées de main, des pancartes sur les poteaux.
Les soupers spaghettis, bien encore. Oui, mais c'est compliqué, ça. Puis c'est vrai que la politique en souffre beaucoup. Puis je veux dire, avec tout ce qui est en train de changer, il n'y a pas nécessairement le député de tel endroit, Rivière-du-Loup, qui est sur les réseaux sociaux, qui va essayer de faire son chemin. Aussi difficile soit-il que Manon au salon de coiffure, quand il y en a 34 autour d'elle, ça a tellement changé. Puis ça doit changer votre métier aussi.
Ah oui, ben, ça change notre façon de voir, d'observer et également de faire, par exemple, l'interrelation entre le média traditionnel et les réseaux sociaux. Parce que c'est sûr que Mme Robitaille de Trois-Rivières qui publie un message sur Facebook, ça n'a pas le même impact qu'un article dans la presse. Ça fait qu'on ne peut pas mettre l'un à côté de l'autre. Cependant, c'est sûr que les réseaux sociaux ont une influence sur le média traditionnel et vice-versa. Lorsque RDI et LCN deviennent débiles, dans les réseaux sociaux, on va devenir collectivement débiles. Et lorsque les réseaux sociaux deviennent débiles, les médias traditionnels, ensuite, vont accorder jusqu'à 13 fois plus d'attention parce que les réseaux sociaux sont devenus fous. Donc, c'est un peu comme, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se souvenir de la théorie de la saucisse high grade, plus on en mange, plus elle est fraîche, plus elle est fraîche, plus on en mange. C'est un peu la même chose, c'est que dans les réseaux sociaux, plus on en parle, plus les réseaux traditionnels vont en parler et vice-versa. Donc, il y a un phénomène d'enflure qui se crée et qui se génère l'un et l'autre. Et ça, on suit ça de près parce qu'à un moment donné, ça crée des grosses ballons médiatiques qui ont une proportion démesurée dans des campagnes électorales. Ou encore, je te donne un exemple, dans la période du dîner de cons. La période du dîner de cons, moi j'appelle ça comme ça parce que c'est tout le temps dans des périodes où tous les médias sont là, mais l'actualité n'est pas revenue encore. Exemple, au retour des fêtes, au mois de janvier, c'est pas pour rien qu'on parle autant du bye-bye pendant deux semaines, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'actualité. Ouais. Fait que, je sais pas si tu te souviens, mais il y a bien des années, à un moment donné, il y a des oiseaux qui mouraient. Là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, c'est Gérard Depardieu qui était devenu russe puis qui s'était mis à faire des conneries. Il y a tout le temps quelqu'un qui devient le compte-service parce que tous les médias sont là, tout le monde gratte, trouver de la nouvelle,
ça prend quelque
traiter
chose.
De l'information, ouais. Mais il n'y a rien. On dirait que même les bandits sont en vacances dans ce temps-là. Et on voit ça au début de l'été, on voit ça au retour des fêtes et également au congé de Pâques, ce qu'on va connaître dans quelques jours.
Jean-François Dumas d'Influence Communication, si on prend les différents chefs de parti au fédéral, est-ce qu'on est capable d'évaluer le poids média de chacun d'eux? Puis est-ce qu'il y en a qui sont privilégiés au détriment de d'autres?
Et ça, c'est fascinant parce que, en théorie, tout le monde a déjà entendu ça, en théorie, les médias doivent donner un traitement équitable, tant sur le plan qualitatif, pas qualitatif, mais quantitatif, à l'ensemble des candidats. Autrement dit, tout le monde devrait avoir à peu près la même place dans les médias en termes de couverture médiatique. Puis c'est pas vrai pantoute. C'est pas ça, mais pas pantoute. Au Québec, depuis le début de la campagne électorale, 48% de l'espace accordé à un chef, c'est Mark Carney. Pierre Poilievre a 28%. Donc, il est très, 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 très loin derrière. Autrement dit, au Québec, dans les médias, on n'en a que pour Carney.
Mais est-ce qu'ils ont leur responsabilité là-dedans? Parce qu'il faut qu'ils en créent, entre parenthèses, de la nouvelle, eux aussi, s'ils veulent l'être. En même temps, les couvertures, effectivement, ne sont pas toujours équitables. Et il est où le ratio?
Bien, en fait, ton point est très pertinent parce que quand tu prends quelqu'un comme Poilievre qui a décidé de mettre dehors les journalistes de son autobus en disant « organisez-vous tout seul », c'est sûr que ça limite un peu le rayonnement médiatique et ça aide pas ben les relations avec les médias non plus. Fait que ça, c'est un facteur, c'est un élément important. Sauf que, en quelque part, il en demeure pas moins que, indépendamment que les journalistes n'aient pas d'autobus ou qu'il y ait un autobus, il faut quand même qu'ils couvrent la campagne électorale et il y a un décalage extrêmement important. Et ce décalage-là n'est pas aussi important au Canada anglais. Pierre Poilievre est beaucoup plus médiatisé, toute proportion gardée, ailleurs au pays qu'au Québec. Donc, on accorde. Carney est surmédiatisé, toute proportion gardée, si on se compare avec le reste du pays. Et l'autre observation qui me jette à terre, c'est la disparition progressive de Yves-François Blanchet. Qui arrive, depuis le début de la campagne, c'est il est à 10,76% en termes d'espace média comparativement au chef. Et il n'y a même pas un point de pourcentage qui le sépare de Jack Meesing.
Autrement dit... Au Québec, ça. Oui, puis habituellement, c'est la place où ils doivent se prouver parce que c'est comme ça qu'ils sont capables d'être encore au fédéral.
Exactement. Et l'autre, ce à quoi ça me fait penser, c'est les dernières campagnes de Gilles Duceppe. Parce que le même principe s'applique à tout le monde. Si tu veux te faire élire, il faut que tu sois dans le Kodak. Et Gilles Duceppe, il y avait comme un phénomène d'usure médiatique. Les dernières campagnes, quand il était à la tête du Bloc, progressivement, il s'est mis, on a vu un affaiblissement de son espace média progressif, mais qui devenait de plus en plus important. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Yves-François Blanchette jusqu'à maintenant en termes de volume de couverture. Je ne parle pas de stratégie de communication, juste le volume de couverture. Ce n'est pas une bonne campagne politique, une bonne campagne électorale pour Yves-François Blanchette. Il n'est pas là, il n'est pas dans le Kodak et ça, ça ne lui servira pas.
Puis si on prend les différences entre le traitement des nouvelles au Canada versus au Québec, prenons exemple la guerre commerciale. Est-ce que c'est traité avec autant de foi qu'au Québec versus le Canada?
Ça se ressemble beaucoup, je te dirais. Les différences, essentiellement depuis le début de la campagne, c'est qu'ailleurs au Canada, quand on analyse l'ensemble des sujets à tous les jours, on donne beaucoup plus de place à Pierre Poilievre que ce qu'on fait au Québec. La guerre commerciale, c'est le sujet numéro un. Donald Trump, sans surprise, pourrait gagner. On pourrait arrêter l'année aujourd'hui et il est comme deux fois et demi plus médiatisé que son plus proche poursuivant. C'est l'individu dont on a le plus parlé. Et le plus drôle, c'est que dans le cas de Trump, et ça c'est quelque chose qui me fait penser aux Canadiens, tu sais, dans le cas du Canadien, plus de 90% de ce qu'on dit sur le Canadien, c'est pas de la nouvelle, c'est du small talk. C'est « Ouais, moi je pense qu'il devrait jouer sur le troisième trio, lui il est pas bon, on devrait plutôt l'échanger. » Tu sais, c'est pas de la nouvelle, c'est du gossip, c'est de la balloune. Ben, ce qu'on dit beaucoup sur Trump, c'est la même chose. C'est pas vraiment de la nouvelle, c'est qu'on exprime beaucoup d'opinions sur lui, beaucoup d'impressions, il y a beaucoup de peur.
Des frustrations.
De frustration. Ouais. On aime le détester ou on déteste l'aimer, mais d'une façon ou d'une autre, il laisse personne indifférent. Et Trump, ça, on le voit aussi ailleurs au pays. C'est pas juste propre au Québec. Je pense qu'unanimement, il n'est pas très populaire au Canada.
Quand je lis un peu les journaux canadiens, je m'aperçois qu'il y a des guerres qui peuvent se faire et qui ne parviennent pas aux frontières du Québec. Entre autres, le petit conflit qui perdure entre Daniel Smith et Mark Carney. On en parle au Canada, mais au Québec, il n'y a personne qui a parlé de ça. Pourquoi? C'est parce qu'on juge qu'au Québec, il n'y a personne qui va s'intéresser à cette guéguerre-là?
Parce que je pense, puis là, je fais de la pop psycho à 50 cents, mais je pense que dans l'esprit des gens, d'abord, les médias ont peur d'ennuyer les gens. Les médias, l'ensemble des médias, Yannick, on est très, 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 on joue très fessier. On a peur que ça soit plate. C'est pas pour rien que, là, on va tomber dans la saison de l'impôt prochainement. Et depuis à peu près, il y a 20, 25, 30 ans, à cette période-ci d'année, à tous les jours, il y avait du monde qui venait nous expliquer comment fourrer l'impôt. Comment cette année, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les nouveaux trucs pour sauver de l'impôt, puis il faut jouer un tour au ministère du Revenu. Il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui. On a tellement peur d'ennuyer les gens qu'on n'en parle plus. Il y a des sujets qui sont moins populaires. L'histoire de Carney avec Daniel Smith, c'est un peu la même chose. C'est comme si c'est loin, ça nous concerne moins. C'est comme dans un... Souvent, même les nouvelles ailleurs au pays, au Québec, ce sont des nouvelles qu'on traite quasiment sur le même pied que des nouvelles internationales. Ce sont des nouvelles qui sont loin, qui nous concernent moins. Ça, c'est le jugement des médias. Et parce que les médias en parlent moins, les gens ont dit ça n'existe pas. Parce que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute à midi, là, on pense tous la même chose. À tort, mais on pense tous la même chose. On croit que l'importance de n'importe quel phénomène de société est directement proportionnelle à sa médiatisation. Autrement dit, ce qui est sur la une, Journal de Québec, c'est bien plus important que ce qui est à la fin. Puis si ce n'est pas dans le journal, il n'y en a pas de nouvelles, il n'y a pas d'enjeu. On croit ça à tort, mais on pense ça. Par conséquent, quand il y a des sujets, il y a des nouvelles dont on ne parle pas, comme par exemple la pauvreté, les aînés, la violence chez les jeunes, les vieux qui meurent dans les CHSLD mal climatisés, on n'en parle plus de ça, ça n'intéresse plus personne. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas de problème parce qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est un des problèmes. Dans la campagne électorale, il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont évincés. Et le Québec, nous, on compare au quotidien. Ça me fascine. On compare le Québec avec le reste du Canada dans la campagne électorale. Puis on découvre que on a la plupart du temps, presque tous les jours, on n'a pas du tout les mêmes intérêts. On ne parle pas partout des mêmes affaires.
T'sais, exemple, au Canada, on a parlé énormément de Stephen Harper dans les derniers jours. Au Québec, on en a parlé très peu. J'ai entendu parler de Stephen Harper à Radio-Canada puis à cette antenne-ci. Là. Mais sinon, au Québec, on en parle très peu. Tandis qu'au Canada, Stephen Harper a été sur toutes les lèvres la semaine dernière.
Et Pierre Poilievre a essayé au début de la campagne, il a slacké ça, mais il a essayé une vieille stratégie de Stephen Harper, vieille stratégie de communication. Dans les dernières campagnes électorales de Harper, ce qu'il faisait, c'est que le matin, il faisait une sortie publique et il faisait une déclaration qui brassait tout le monde. Et tout le monde était un peu forcé à réagir le reste de la journée. Autrement dit, il prenait le contrôle, en mauvais français, il prenait le contrôle de l'agenda médiatique, il prenait le contrôle de ce qui allait se passer en faisant une déclaration qui faisait réagir tout le monde. On a déjà vu d'autres politiciens avec moins de succès qui ont essayé la même chose. Mais Poilievre, au début de la campagne, faisait un peu la même chose. Le matin, il faisait une sortie, il lançait une balloune, forçait les autres à réagir. Mais on dirait que c'est un peu essoufflé ou encore l'absence des médias a fait en sorte qu'on accorde moins d'attention à ses déclarations et par conséquent, ben, sa stratégie ne marche pas.
Jean-François Dumas, bon, je sais que tu as eu des commandes là, de la part de certains partis politiques, mais prenons un exemple fictif, si tu veux bien. Est-ce qu'un premier ministre peut avoir accès au service d'un Jean-François Dumas d'Influence Communication qui va lui permettre de faire une tournée de l'actualité extrêmement rapide? C'est-à-dire que tu vas lui donner toutes les nouvelles qui sont importantes pour lui-même. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ça doit être un processus assez complexe de le faire.
Ben, on fait déjà, je te dirais, depuis de nombreuses années, on fait déjà, c'est nous qui préparons l'espèce de cahier de bréfage médiatique, donc la revue de presse du premier ministre tous les matins. Donc, quand il se lève le matin, il y a une équipe travaillée là-dessus. Toute l'Assemblée nationale reçoit, pour la préparation de la période des questions, vraiment un document complet tous les matins aussi. Ces gens-là font appel à nous parce qu'ils veulent savoir ce qu'il y a dans les médias. Et lorsqu'il y a une chicane également entre des politiciens, on fait appel à nous. Un moment donné, je vais te raconter une histoire, mais je ne te dirai pas qui. Hein, on va sauvegarder l'anonymat. D'un moment donné, il y a deux politiciens qui se chicanent et qui se crient des noms publiquement. Et là, on est dans les... Ça se passe, je ne dirais même pas la région. Mais si les gens sont bien curieux, ils vont finir par trouver c'est qui. Et là, à un moment donné, t'es un menteur, t'es un voleur, t'es un crosseur, t'es un ci, t'es un ça, puis à un moment donné, ils se poursuivent et l'un et l'autre. Et là, nous, un des deux politiciens nous donne le mandat de déterminer c'est qui a commencé à chicaner.
C'est franchement. C'est qui a dit la première insulte? Hey, franchement.
Ben oui, c'est important de savoir qui a commencé.
Il va falloir faire rouler ça dans la presse.
Je le fais avec mes gars, moi. Qui a commencé à chicaner? Puis les deux se pointent du doigt.
C'est exactement ça, parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient déterminer dans le cadre de leur jugement puis de leur poursuite, c'était de la faute à qui cette chicane-là. Alors, je me souviens, on a fait une arborescence sur un mur dans le bureau. Écoute, ça faisait à peu près 10 pieds de haut par à peu près 25 pieds de long, avec des post-it.
Je suis quand même rassuré que ce soit vous qui le faisiez et non quelqu'un à l'intérieur de l'équipe pendant qu'il ne prépare pas d'autres dossiers. Là. Ça me rassure au moins.
Je vais te dire un secret. Quand on a montré ça, je me souviens, l'avocat, il dit « Ben voyons donc, on va montrer ça à mon client. » Je dis « Non, moi, je ne suis pas une cheerleader. Moi, je te donne la vraie nature de Bernadette. Et voici ce qui est arrivé. Et voici ce qui s'est dit. Crosseur, menteur, voleur. Et voici qui a commencé, quel jour, quelle date, telle heure, dans tel média. »
C'était crosseur, menteur, voleur, les mots. Parfait.
Le lendemain, on ne nous a jamais dit que c'était grâce à notre rapport, mais le lendemain, il y avait une entente hors cours entre les deux parties.
OK. Hey.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a pas mis le nez dans leurs affaires, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré, noir sur blanc, démontré de façon très pragmatique, voici toute l'histoire, dans un mur au complet avec toutes les niaiseries que vous vous êtes dit, et voici qui a commencé.
Est-ce que c'est grâce à vous, après, qu'on a mis ces mots-là aussi dans tout ce qui est... proscrit de l'Assemblée nationale et qui sortirait de la bouche d'un politicien?
J'aimerais avoir cette prétention-là, mais non, je pense pas. Mais écoute, des histoires de même, on en a des tonnes, mais on a tout bout de champ. Et souvent, je te dirais, beaucoup de gens nous appellent, mettons quelqu'un vous aime pas, OK? Mettons qu'on a des politiciens régionaux, municipaux, parfaits, qui veulent démontrer que vous avez un billet, que vous avez un parti pris dans votre traitement médiatique. Mm-hmm. À chaque fois, moi, je dis, écoute, avant de commencer à travailler, moi, de faire sauver de l'argent, aujourd'hui, on peut prouver n'importe quoi, on peut faire dire n'importe quoi à des chiffres. Donc, mais faut faire attention. Tu ne peux pas partir en guerre contre des médias. Si les médias disent quelque chose de faux sur toi, oui, il faut que tu réagisses. Mais tu ne peux pas t'en prendre à la crédibilité des médias. Et ça, c'est une mise en garde qu'on fait tout le temps avec des gens. Parce qu'il n'y a pas une semaine que quelqu'un ne veut pas faire appel à nous embaucher. Aide-moi à démontrer qu'eux autres, c'est des menteurs, eux autres, ils ont essayé de briser ma réputation. Ben oui, on peut faire ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu vas vraiment gagner? À part ton égo, est-ce que ça vaut vraiment la peine de t'en prendre à ce média-là qui, cette histoire-là, va rayonner chez d'autres médias? Ta crédibilité va être affectée, ta relation avec les médias va être également affectée. On fait beaucoup de pédagogie, pas juste de l'analyse, mais beaucoup de pédagogie avec les gens parce que à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire quand même que dans ta chicane avec les médias. Voilà. Il y a une ligne que tu ne dois pas franchir.
Beaucoup de pédagogie et, je sais, un peu de psychologie aussi parfois avec tes clients. C'est toujours un plaisir de te jaser, Jean-François, d'Influence Communication. T'es incroyable et t'as encore une belle voix.
Oui, ben, vous êtes bien gentils tous les deux. Puis, écoute, on parlait de météo tantôt puis de beau temps, là. Ça s'en vient, je le sais. Ceux qui ont, comme moi, qui flattent leur moto, là.
Ouais.
Soyez patients dans pas longtemps. Puis continuez de lui parler puis lui chanter des chansons dans pas longtemps. On pourra aller faire des tours.
J'ai mis ma batterie sur la charge en fin de semaine. Fait que je vis d'espoir, Jean-François Dumas.
Oui, monsieur.
Merci beaucoup.
Salut.
Bye-bye. L'excellent Jean-François Dumas d'Influence Communication. Influence Communication et offre des services de surveillance et d'analyse des médias québécois, canadiens et internationaux. Influencecommunication.com pour ceux qui veulent plus de détails. 13h03, on fait une courte pause et on revient tout de suite.
Boulevard 102.1.
Marceau le midi.
Marceau le midi, présenté par la Clinique de la couleur. Du 16 au 29 avril, obtenez 20% de rabais sur les peintures Benjamin Moore sélectionnées. Clinique de la couleur, Beauport et Charlebourg.
L'Institut Diva, au service de votre bien-être depuis plus d'une décennie. Passez voir notre nouvelle succursale sur 4 Bourgeois. Nouvelle adresse et nouveau décor, mais avec la même équipe attentionnée. Les nouvelles clientes sont bienvenues en service d'esthétique, coiffure et massothérapie. InstitutDiva.com.
Chez La Tulipe, je fais ce que j'aime. Je profite d'une quantité incroyable de produits soldés, je découvre une foule de nouveautés partout et avec 139 $ d'achat ou plus d'articles de pêche, mon permis provincial est gratuit. Tout ça en magasin et en ligne chez La Tulipe.
Si vous rénovez votre intérieur, si vous avez envie d'un genre de rafraîchissement du printemps, ou vous allez déménager à quelque part, ou vous allez aider quelqu'un qui déménage, peu importe, la Clinique de la couleur de Beauport ou de Charlebourg vous attend. C'est une entreprise d'ici, avec des gens d'ici qui y travaillent. En fait, c'est un détaillant qui est indépendant de Benjamin Moore. Donc, compagnie québécoise familiale. Les propriétaires du magasin en savent quelque chose de la rénovation, de la couleur, du design d'intérieur, parce qu'il y en a un, entre autres, qui travaille à la boutique. Il y a Claudine Marchand qui a pris les rênes d'entreprise en compagnie de son conjoint Simon Cloutier, qui est coloriste, qui œuvre principalement auprès des clients industriels. Par contre, c'est bon pour tout le monde. Les services offerts, ben, ça va de A à Z et c'est toujours dans une ambiance courtoise, chaleureuse. À chaque visite, vous allez ressentir que votre projet est important pour eux. On a même un service de designer à domicile pour choisir les couleurs ou bien refaire une cuisine, une salle de bain complète en ayant un service clé en main. La Clinique de la couleur, si vous ne savez pas c'est quoi, moi je vous invite à aller voir. C'est une force de l'entreprise d'avoir tout ça pour vous. Des déplacements jusque dans votre maison, mais aussi le fait que ça se passe ici avec une grande connaissance de la couleur, de la teinture extérieure, intérieure, peu importe. Va voir le site web de la Clinique de la couleur. Tu vas pouvoir compter sur une équipe compétente, dévouée pour t'aider dans un projet de A à Z, peu importe les peintures, acrylique, latex, à l'huile. On a tout et même pour les espaces commerciaux. C'est le meilleur moyen de trouver le produit qui vous convient. Le mieux, c'est d'aller en magasin ou encore de prendre rendez-vous pour une consultation avec un designer ou une designer. La Clinique de la couleur à Beauport ou à Charlebourg.
Hey, chez Québec Brou, là, les mordis et les
tics, ça s'écoute bien avec ton sandwich au croton.
Une belle discussion qu'on a avec Jean-François Dumas d'Influence Communication. Ça fait des années que je voulais le réentendre à la radio de Québec. Dans le temps, je l'écoutais beaucoup.
Pis donc, là, ben, t'écoutais où je travaillais?
Ou... Oui, mais je t'écoutais pas toi.
Non, surprise. Non,
je l'écoutais lui.
En même temps, c'est un grand mensonge, mais continue.
Ouais.
Que t'écoutais Jean-François. Il t'écoutait aussi.
J'écoutais Jean-François.
Ce que je
faisais. Exactement. Donc, 8 degrés sur Québec, c'est de la pluie pour aujourd'hui. Puis, bon, j'ai des bonnes nouvelles pour vous autres. T'as-tu trippé, toi, sur le rappeur Flo Rida?
Ben oui, là, je pense que tout le monde a trippé sur lui, mais en n'ayant pas traduit les paroles.
Il s'en vient dans la grande région de Québec.
Ben oui, toi. Très près.
Let me talk to him. Let me talk to him.
Hey, ça, là, les années de Dagobert. Peut-être avant 18.
Il arrive au Festival de Lévis. C'est un invité qui vient d'être annoncé aujourd'hui.
Malheur de dire que je risque d'être là. Peux-tu aller faire un tour?
Bon, si j'ai des billets, oui.
Si t'as des billets, tu paierais pas?
Tu vas m'inviter? Ben oui, je vais payer.
Tu viens, je vais pas t'inviter à Florida. Tu vas rester droit comme une barre de même à côté en regardant par des fois hochant la tête.
Ouais, ben oui.
Ça me prend des gens qui vont danser, qui vont avoir du fun. Sinon, est-ce que tu vas aller voir un autre artiste? Parce qu'il y a pas juste lui, là.
Donc, il y a Florida qui est annoncé. Puis aujourd'hui, on annonce aussi ce band-là, qui est un des bands extraordinaires. Rise Against.
Type de danse, hein?
Oui. Donc, ça va être au Festival de Lévis. Puis, bon, Florida, Rise Against, I Am va être là. Je danse le Mia.
Ça, c'est ta gang, là. Je veux dire, tu connais les paroles par cœur.
Il va avoir DJ Robin Schulz.
Oui, il va avoir Talk aussi. As-tu vu qui sera là également?
Qui?
Tactica.
C'est un band, ouais.
On était chez nous, là. Ouais. Je savais plus qu'ils roulaient leur boss... Encore, là. Et
ouais,
c'est Tactica.
Une fois de temps en temps.
Tactica est invité. Je ne sais pas si Cyr Pathétique va être là-dedans, mais on est dans la même année, là.
Exact.
Tu voulais encore plus de Rise?
Exact. Je vais remonter ça.
Ça, c'est quand même à prévoir dans votre horaire parce que c'est du 30 juillet au 3 août. Fait que c'est festival après festival après festival. L'après-vente, les passeports adultes sont après-vente jusqu'au 20 juillet en ce moment, mes amis.
All right. Mon chum Pat Raymond du podcast Financièrement parlant est en studio avec nous autres. Pat Raymond, c'est un ancien militaire. C'est un ancien gestionnaire de patrimoine aussi. Salut, mon pote.
On est là. Comment ça va?
Ça va très bien. Ça va très bien. T'as des grosses semaine ces temps-ci, tu fais des tournages télé. Là. T'es-tu arrivé maquillé?
Écoute, pas évident la vie de télé. Là,
la vie de
pas
évident.
Pas facile.
Pas évident. Mais je suis content que tu m'en parles. Le débat des finances sur Télémag.
C'est normal, une belle idée, ça.
On s'implique dans cette émission-là. On salue le producteur Serge, qui est mon nouvel ami.
Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, c'est vraiment un débat de finances. Vous devriez investir là, ou comment gérer votre portefeuille. Sauf que, est-ce que vous avez à vous préparer avant ou vous allez réagir en toute spontanéité?
Il y a beaucoup de spontanéité et c'est ce que j'aime. J'aime bien la spontanéité. Malgré que c'est de la TV, hein, on pourrait croire que c'est comme avec le temps très limité. Mais non, on a réussi quand même à faire 6 shows. Le tournage est fini depuis hier. L'émission, deuxième épisode, demain soir, 19h30. Ben, tu sais, sur Télémag, on peut retrouver aussi dans la grille horaire un peu partout. Là, ça repasse et on le trouve aussi sur YouTube. Moi, j'y suis là, pour 3-4 épisodes sur les 6 de la saison. Je reviens la saison numéro 2 aussi. Ils ont aimé mon apport, mais moi, je suis là aussi pour mettre un peu de marde, là, c'est le fun. Parce que, étant donné que je suis un retraité, moi, des finances...
Mais qui êtes-vous, Pat?
Je peux m'en permettre un peu plus.
La liberté.
Ben, je peux m'en permettre un peu plus parce que j'étais aux côtés de professionnels. D'abord, je les connais pratiquement tous. Là. Hier, je tournais avec un, ça fait 15 ans, que je connais très bien. Fait que, tu sais, juste avant qu'on tourne, je dis, ben, regarde... Toi, tu es plus pour le CELI. Moi, j'aime bien le REER. Même avec le fonds de pension, le REER, je trouve ça intéressant. Par contre, oui, mais moi, juste garde ça de même, puis on va tourner. Tu sais, c'est naturel au bout. Fait que je pense que ça a bien sorti. J'ai hâte de voir l'épisode. Mais ce genre de ton, avec une question, deux panélistes, deux l'animatrice, co-animatrice, puis on relaye comme ça. Mais on a quand même 2 fois 11 minutes pour débattre sur des points. L'idée, c'est que l'auditeur, l'auditrice, se fasse une idée. Puis qui se dit dans son salon, ben je me posais la même question moi aussi. Puis des fois, ben deux personnes des services financiers sont pas du même avis. T'sais, tu vas voir deux planificateurs, puis ça se peut qu'il y ait deux optiques différentes. Quoi qu'il peut être, ça peut être très bon pour toi.
Moi, je prends celui qui est le plus riche.
Tu vas prendre celui qui est...
oui, je veux qu'il me rende riche, mon planificateur.
Mais ça se peut que ça soit juste de la chance.
Il va prendre sa retraite trop vite.
Ou un héritage.
Je suis toujours très alerte là-dessus. À un moment donné, il faut que tu prennes tes finances en main. Il faut que tu arrêtes de laisser ça dans les mains des autres puis que toi, tu t'en occupes. Je suis allé faire un tour, Pat, sur ta page Facebook du podcast Financièrement parlant. Puis, il y avait un article qui mentionnait les règles de l'argent. Et la règle numéro 1 que tout homme d'affaires m'a répété souvent, c'est « paye-toi en premier ».
Ben oui.
Pourquoi?
Ben oui.
T'es-tu capable de l'expliquer concrètement? Pourquoi les hommes d'affaires et les femmes d'affaires se payent toujours en premier?
Toujours en premier parce que, ben, premièrement, tu vas sauver du temps puis c'est le temps qui compte dans l'investissement. C'est-à-dire que si tu ne te payes pas en premier, tu vas te payer quand? Tu sais, tu vas perdre du temps. À un moment donné, tu vas dire, ben, je devrais peut-être me mettre un peu d'argent de côté, m'avoir 48 ans, puis je devrais. Et là, c'est parce que si tu l'avais fait, tu t'étais payé en premier. Tu sais, ça prend 20 % à financer une retraite. 20 % des revenus que tu vas gagner, là, pour ne pas avoir de clash, là, à un moment donné, à 65 ans, tu tombes pauvre du jour au lendemain, tu vas trouver ça tough un peu.
Fait que faudrait-je vivre avec mon 80 % puis le reste, je l'investis.
Dans ta business.
Faut que tu gagnes. Je ne suis pas en podcast, là. Faut que tu gagnes. CRTC, salut. Faut que tu gagnes assez pour être capable de vivre avec 80 % de ton revenu. C'est ça qu'il faut. C'est que si tu gagnes pas assez, ben peut-être que là, je sais pas, t'as peut-être un char de trop, t'as un bateau de trop, t'as une motoneige de trop, t'as un sidou de trop, t'as un voilier de trop, t'as quelque chose de trop parce qu'il faut absolument que tu planifies cette fameuse retraite qui va coûter une fortune.
T'évalues ça à combien les gens sont capables de vivre avec 80 % de leur salaire?
Ben faut faire quasiment 100 000 aujourd'hui.
Quasiment.
Je l'avoue, là, parce que je vois déjà des textos rentrés. Bon, mais là, regarde, je n'y arrive pas, puis j'en manque, puis tout ça. Ouais, mais t'as pas les moyens d'avoir un char, puis t'as un char neuf. Tu sais, un char neuf, c'est combien? Un char neuf dans une vie de 45 ans de vie active, c'est autour de 500 000 en flat, là. Je mets pas d'inflation, là. Tu comprends que c'est pas mal plus que ça, mais c'est 500 000 $ en moyenne. Si, mettons, tu mets 10, peut-être une dizaine de mille par année pendant, tu vois, 45 ans. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. Les gens qui fument, c'est 200-300 000 sur une vie active de 45 ans. Ils vont peut-être fumer plus longtemps que ça ou ils vont mourir. Par contre, ceux qui fument meurent à 71, 72, ils ont moins besoin de REER. Tu sais, ça compense. Il y a des statistiques qui se font là-dessus. C'est un actuaire qui va le faire. Tu sais, c'est pas être sans cœur, mais c'est ça qui arrive pareil.
Ça doit être dur de rester ton ami quand la personne te dit « Pat, moi, là, je t'écoute parler à la radio, là, j'en ai pas d'argent. »
Il fait pas de l'anxiété à tellement d'auditeurs à chaque fois qu'il est là.
Le gars, c'est un fumeur.
Mais tu vas mourir jeune, t'en as moins besoin.
Se payer en premier, c'était le point 1.
Oui.
Le point 0, c'est quoi? C'est de passer toute la richesse de son mari riche de plus de 65 ans?
Ah non, ça j'aurais
jamais
pensé.
C'est pas dans les stratégies.
Non, mais tu sais, ça se résume en 5 verbes, hein. Gagner, protéger, gérer, fructifier. Puis, dans le fond, ça commence tout le temps par payer ses dettes. Hein? Ouais. On veut se payer en premier, oui.
Ouais.
Mais des dettes, c'est tout un poids. Des dettes mauvaises. Moi, j'en ai plein de dettes. J'ai plein de dettes. Je viens faire des conneries financières. J'ai plein de dettes. Vous n'avez pas idée des dettes que j'ai. Mais le rendement sur ces investissements-là, la plus-value sur ces
jours, ça va te revenir.
Ça devance énormément le coût d'intérêt de ces dettes-là, comme dette de l'immobilier, par exemple, ou des trucs comme ça, de prêt-levier ou d'investissement, peu importe.
T'es pas celui qui prône le remboursement des dettes illico, mais ça, c'était générationnel.
Ça dépend de la dette.
Oui, mais tellement entendu souvent, puis moi, c'est la chose sur laquelle j'ai misé le plus début de ma vingtaine, là, c'est de pas en avoir. Fait que pas de dette scolaire, pas ci, pas ça, parce que j'ai entendu toute ma vie, puis c'était la moins bonne façon de le voir, probablement, mais quand t'as pas de dette, t'es riche.
Mais exemple, si t'es un investisseur immobilier, là, tu dois ton cul, mettons, tu as 2 millions en hypothèque, mais une fois que tout ça va être rentabilisé, à la fin, tu vas valoir une fortune.
En plus de la vente que tu vas pouvoir
faire. Moi, j'ai toujours dit de devenir millionnaire brut. Là, je parle pas du comportement, là, je parle de l'état financier. Millionnaire brut, c'est-à-dire que tu empruntes, tu mets un peu de cash, puis à un moment donné, tu as 1 million brut qui est en train de se payer, là, peut-être sur 25 ans, puis qu'éventuellement, ce million-là va devenir net et il va prendre la valeur avec de l'immobilier. Alors, on enlève beaucoup de biens de consommation, malheureusement, pour bien des gens parce qu'on ne gagne pas assez. Des gens qui gagnent beaucoup, ben c'est correct. Tu dis, ben regarde, moi, j'ai besoin de 50 % de mon revenu. Il faut que tu gagnes beaucoup, par exemple, pour avoir besoin de ton 50 % de ton revenu. L'autre 50 %, ben tu peux prendre une partie, puis te gâter, puis te flamber sur ce que tu veux. Il y a toujours le fameux respect du fameux 20 % qu'on doit injecter en investissement de toutes sortes. Pas juste la retraite. J'ai parlé de la retraite, mais ça, c'est plate, parler de la retraite. Mais on le fait aussi pour d'autres projets, d'autres affaires.
J'avais lu un livre hyper intéressant. Je pense que je t'en ai déjà parlé. Le fameux livre sur les finances de Tony Robbins.
Oui.
Puis il mentionnait, tu sais, peu importe le moyen que vous allez utiliser, tant qu'on sent que c'est légal, là, trouver un moyen de faire de l'argent en dormant. Puis c'est là que j'ai tout compris.
C'est
combien... T'as commencé à vendre la poudre à ce moment-là?
Non,
avec
non, non, c'est là que j'ai tout compris, le thinking des non, gens ouais. qui
c'est dans la poudre, tu dormiras pas.
Qui réussissent financièrement. C'est des gens qui trouvent le moyen d'investir, d'avoir un plan, des objectifs avec ouais. un planificateur financier, ouais. qui trouvent le moyen, pas de fourrer le gouvernement, mais d'empêcher le gouvernement de te fourrer puis de prendre tous les moyens légaux qui vont faire en sorte que tu vas envoyer le moins d'impôts possible au gouvernement. Ouais. Trouver le moyen de faire de l'argent en dormant. Ça peut être votre entreprise, ça peut être des placements en bourse, ça peut être des REER qui travaillent, mais il faut tout le temps que votre argent travaille. Puis c'est dans un livre de Tony exact. Robbins, puis moi, ça m'avait fait réaliser plein de choses que je devais faire puis que je faisais pas.
À quel âge tu as commencé à t'intéresser à ça, pour vrai, mettons, concrètement?
18 ans, mais j'ai tout le temps été pauvre que le Christ. Là. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, là, on était pauvre. Puis je m'étais fait une promesse, c'est que je creverais pas pauvre. Mm.
Toi, c'est de l'insécurité.
À 18 ans, c'est l'insécurité. Je pense qu'on est les deux pareils.
Ouais, il y en a beaucoup.
Qui a fait en sorte que moi, j'ai rencontré un planificateur financier très jeune. Puis très jeune, je me disais, regarde, moi, je t'en donnerai pas bien gros chaque année, mais ce que je vais te donner, je veux que ça travaille. Mm-hmm. Puis après ça, ben, l'intérêt cumulé a fait en sorte que ça a grossi. Puis en m'informant tout le temps un peu plus sur les finances personnelles, sur comment faire des affaires, la bourse, ça fonctionne comment, tout ça et tout ça, ben, je me suis fait un petit montant à moi qui me sert à jouer en bourse puis ouais. de placer ça dans des endroits qui, à mes yeux, à moi, sont sécuritaires. Je viens de dire jouer en bourse. Là. Fait que ouais. ça se peut que je perde tout du jour au lendemain. Mais de la façon dont je me place, c'est pratiquement impossible que je perde tout du jour au lendemain.
Ben, tu te positionnes, tu spécules.
Exact.
Parce que c'est une belle façon de s'enrichir, spéculer. Mais il faut faire la différence entre spéculer et investir. Puis au départ, c'est d'avoir le fonds d'urgence. Puis au départ, c'est d'avoir payé ses dettes.
C'est ça. Puis on va en parler de ce fameux fonds d'urgence-là. Mais moi, pendant que tout le monde paniquait aux États-Unis puis au Canada avec les fameux frais à Donald Trump, puis la bourse était en descente totale, moi, j'achetais. Là. Quand j'avais ma paye, je me prenais un petit montant puis j'achetais à la bourse. Là, parce ouais. que je sais que ça va remonter absolument. À un moment donné. Là.
Tu t'es repositionné.
Je me suis repositionné tout simplement. Mais ça, c'est en lisant, c'est en écoutant des gars comme toi dans ton podcast Financièrement parlant ou en lisant des livres. Ben, Tony Robbins, c'est pas un grand financier, mais c'est un gars qui a quand même bien réussi.
Un que j'ai aimé, c'est Père riche, père pauvre ou père pauvre, père riche. C'est
Robert Kiyosaki.
Kiyosaki, ouais, c'est ça.
C'est bon.
Exact. C'est un excellent livre, soit dit en passant. Mais parlons du sujet de la journée, mon ami, si tu le veux bien. Comment se construire un fonds d'urgence? Il y en a qui pensent que c'est sorcier de se bâtir un fonds d'urgence, là. Moi, ouais. Stéphane Leblond, chez Leblond et Associés, quand je l'avais rencontré, j'en avais pas de fonds d'urgence.
Ouais.
Puis il m'a dit, Yann, un fonds d'urgence, c'est 4 à 6 mois.
Là, c'est exactement. Ben, tu, moi, je dis 3 à 6 mois, puis c'est la même chose. 3 à 6 mois de dépenses.
Qu'est-ce que tu veux dire, Stéphane? Il dit, 4 à 6 mois. Ouais, mais ouais. qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, il faut que tu sois capable de vivre avec ce fonds d'urgence-là ouais. pendant 4 à 6 mois sans travailler. Ouais. Et boy, que je partais de loin. Là.
Quand on y pense, hein, ou d'être capable de prendre une année sabbatique, si tu veux savoir si t'es un peu de lousse, si t'es lousse, là, c'est pas le char que t'as dans le cours, là. Serais-tu capable de prendre une année sabbatique? Tu vas savoir tout de suite. L'argent que tu fais en dormant, ben, tu l'as bien dit, ça peut être du dividende, du plus-value de différents immobiliers. Puis à un moment donné, à la fin de l'année, tu te dis, mon doux, j'ai fait cette année plus que qu'est-ce que je gagne quand je travaillais à temps plein avec juste la valeur des investissements. Mais évidemment, quand tu t'enrichis, tu l'as jamais, ben, poche. C'est la valeur. C'est comme la plupart des gens très fortunés. Puis là, on en parle beaucoup ces temps-ci de Musk et compagnie. Ils n'ont pas tant d'argent que ça dans leur poche. Ce sont des valeurs. D'abord, on les a vus perdre 100 milliards. Puis à un moment donné, ils regagnent 150 milliards. Mais ce sont des valeurs. Ce sont des actions. Ce sont des titres. Il faut garder le minimum d'argent comme tel, de dollars proprement dit. Puis là, c'est là que le fonds d'urgence, ça, c'est fonds de pension, c'est autre chose, c'est plus tard. Mais le fonds d'urgence, il est nécessaire de garder son argent en dollars. Puis c'est à peu près la seule partie où ce qui devrait être en dollars, le reste est en titre immobilier, titre boursier, titre obligataire, name it. Donc, en dollars, ça veut dire quoi? Dans un compte tout bonnement, peut-être, mais peut-être un compte à intérêt élevé. Peut-être, je ne sais pas, mais on peut le laisser en CELI, quoique ça ne fait pas tant de rendement, mais au moins le rendement sera à l'abri de l'impôt, pas de relevé à la fin de l'année. Mais ça, c'est vraiment le fonds d'urgence si le frigidaire pète. Ça, c'est une partie. Mais après ça, il peut y avoir d'autres argent qui est investi, légèrement investi, mais tu dis ça, je peux en avoir besoin pour un an à trois ans. Je pense à nos amis retraités. Fait qu'ils n'ont pas à capoter parce que la bourse a baissé ou quoi que ce soit. Il aurait dû avoir un tiroir pour un an à trois ans. Placé, oui, ça peut être dans des CPG 3 ans, 4 % ou 3 points. Pourquoi pas pour la courte période? Mais en même temps, on meurt à 90 puis 95 ans. Ça va prendre aussi de la croissance. On n'a pas d'option. Ça prend de la croissance. Tu peux pas bâtir une vie, une retraite avec des CPG parce que tu vas faire 2%, 1%, 2%. Ça va te prendre 50 ans de doubler ton argent. Tu vas arriver à l'autre bout. C'est à peine si tu vas avoir de l'argent pour 2-3 ans de retraite. Il faut absolument avoir un certain niveau de risque pour arriver à des résultats, mais il faut être capable émotionnellement de vivre cette croissance-là qui va aussi décroître à un moment donné, comme on a vu dernièrement, et qui reprend. L'argent, à part des mains d'un, parce qu'en va dans les mains de l'autre, les valeurs se promènent à balancier. Mettez-vous dans la peau d'un fonds de pension, là. Les investisseurs institutionnels, les gros fonds de pension, là, c'est quoi leur option, là, eux autres, là, pour faire grossir les fonds de pension? C'est quoi leur option? Ben oui, tu vas me dire, la caisse de dépôt, là, il a investi dans des mobiliers, des infrastructures, des trucs comme ça. Mais il faut absolument qu'il investisse à la bourse pour avoir une partie liquide. Il y a des gens qui décaissent dans des fonds de pension.
Je commence comment à le bâtir, mon fonds d'urgence? Puis j'ai eu cette discussion-là, là, 3 ans, dans mon ancienne vie radio, avec une collègue qui, elle, en avait pas de fonds d'urgence. Puis elle disait, mais tu sais, Yann, moi, j'arrive sur la fesse à la fin de mon mois, là. J'ai dépensé tout l'argent que le gouvernement me laissait dans mes poches.
Ouais.
Puis là, je disais, ouais, mais il y a certainement des endroits où il faut que tu coupes. Ben non, pas du tout. OK, parfait. Ben parle-moi de tes journées. Mm. Puis là, je vais les nommer, mais elle allait à tous les jours chez Tim Hortons.
Ouais.
Elle allait chercher son café. C'était 2$, 3$ qui passait là tous les jours, tandis qu'à la station où on était, le café coûtait 1$.
Mais Pierre-Yves McSween, il avait fait justement dans ses livres, genre de ramasser de dépenses stupides comme ça.
Ouais.
Puis à la fin, tu sais, il y en avait, pas se faire couper les cheveux, je veux dire, à un moment donné, on peut avoir l'air malpropre à longueur d'année, sauf qu'il y en avait des insipides, mais il y en avait des concrètes.
Vraiment, tu sais, puis les gens se rendent pas compte à quel point on dépense de l'argent. Tu sais, je pense aux gars de la construction, tu sais, ils n'ont pas une seconde à perdre. Ils arrivent au dépanneur, c'est pas un sandwich, 3-4 monsters. Si tu le fais.
Gros stéréotype.
Mais je le vois souvent, là.
Je te crois,
les gars de la construction, là, même quand ils sont fatigués, il faut qu'ils continuent à être hyper performants.
Fait
qu'ils se pognent des monsters. Puis c'est 3-4, mais ça veut dire que.
C'est une façon de se récompenser.
Par jour, ça
nous fait du bien à chaque jour. Instantanément, ça nous fait du bien.
Mais Pat, 25$ par jour.
Puis je sais pas jusqu'à quel point tu t'en rends compte dans ton bien-être.
En sandwich, puis en monster.
On a un 5-10 000$, là. Par année, là, on a 5-10 000 piastres qu'on peut ramasser à terre là, juste en changeant les habitudes.
Va te chercher une caisse de Monster chez Costco, puis tu vas rentrer dans ton argent.
Des fois, c'est ça. Ou fais ton café chez vous, ou paye-toi une belle machine, une bonne machine, puis tu vas la rentabiliser au lieu d'arrêter à chaque matin. Puis tu peux t'en prendre un café de temps en temps. C'est l'équilibre tout le temps. Mais tu le calcules, quand tu fais ton budget, tu te rends compte que finalement, ça a coûté 1 300 $ de Tim Hortons ou ça a coûté 2 000 $. Quelqu'un qui fume, on est à 5, 7 000, 8 000. Des autos neufs par année avec les intérêts puis tous les frais. Puis ça peut coûter 1 000, 1 200, c'est-à-dire 12 000, 13 000, 10 000. Rapidement, sur un budget annuel, là, on va chercher là, une dizaine de mille où on peut ramasser ça à terre là, puis dire... Juste le même argent, on va faire d'autres choses avec. Mais c'est le temps que ça va prendre, Yannick. Le monde trouve ça long. Tu dis, ouais, mais je vais avoir quand mes résultats des rendements composés? Pascal, ça va prendre 12-13 ans avant que tu dis, ouais, tabarouette, on dirait que ça a quasiment doublé cette année. Ouais, mais ça fait 12-13 ans, 15 ans que le temps travaille pour toi. Puis qu'à un moment donné, tu as eu des baisses de marché. Puis là, tu as des hausses de marché, des baisses de marché, des hausses de marché. Mais à chaque hausse de marché, tu as une captation à la hausse, tu manques pas les bonnes journées, tu es toujours là. Le temps va faire toute la différence.
Tout le temps.
Il n'y a pas de raison de ne pas être millionnaire à la retraite. Là, je forge du monde, je le sais. Là, tu vas gérer ça, les textos.
Oui, je vais les gérer.
Genre les insultes.
Il n'y a pas de raison d'être... Puis là, il y en a qui disent, ben moi, millionnaire dans 30 ans, ça va être quoi? On comprend, là, millionnaire, dans le sens qu'il n'y a pas de raison de... Parce qu'on va prendre 30-40 ans pour se bâtir une retraite. Puis à 20 ans... Tu commences, c'est sûr que là, si on revient au fonds d'urgence, là, il faut absolument, pour répondre à ta question, parce que je m'égare des fois, il faut absolument prendre un montant qu'on est capable de respecter, puis on le met dans un compte à part.
Ça peut être 10$ par semaine.
Ben oui, que tu n'as pas accès avec
ta carte. Les fameux comptes Hop, là, ça m'aide beaucoup.
Un exemple.
Le compte voyage pour les enfants, il prend un certain montant. Chaque fois que je me paye, il prend un certain montant, puis il s'en va dans le petit compte Hop. C'est même pas moi qui s'en charge.
Non, mais tes gars te le rappellent qu'il faut que tu mettes de l'argent dedans, par exemple, ça me fait rire.
Ils surveillent leur compte, hein? En passant, regarde, ah oui, là, bon. Le petit montant. Moi, c'est automatisé, je ne surveille pas ça.
Ouais.
Mais eux autres, ils prennent mon cellulaire là, puis ils surveillent leur compte en regardant si les montants ont bien été déposés chaque semaine. Je trouve ça cool parce que peut-être qu'ils vont être comme ça avec leurs finances, mais je pense plus que c'est parce qu'ils ne me font pas confiance. Mais tu sais, il y a des auditeurs. Parce que Pascal pense que je fais une caricature. Il y a énormément de gens qui se ramassent au dépanneur à tous les jours, acheter le sandwich à 7$ ou 8$. Le sandwich aux œufs, 7$.
Tu es au centre des congrès, c'est 12.
Ben, au centre des congrès, c'est 12. Richard
mais des fois,
Martineau.
C'est facile,
Richard Martineau, je pense que. Richard Martineau, c'est un.
C'est Richard Martineau au Salon du Livre.
C'est un 12-15$ dans ce coin-là.
T'as pas de chip avec.
Mais Uber Eats, à un moment donné, quand t'as des horaires étranges comme les nôtres, sur l'heure du midi, moi, j'ai commencé à checker. Puis, bout.
Combien?
Ben, c'était l'automne dernier, je pense, ou je sais pas. Hey, à la fin de la semaine, ça pourrait me
coûter
50-60. Je me dis, OK, c'est complètement stupide, là. Non, mais calcule ça, 50-60 fois 4 pour quelque chose que j'ai plus ou moins apprécié manger juste parce que j'avais faim à un moment où j'ai pas planifié mes repas avec lesquels j'ai beaucoup plus de plaisir, tu sais.
Et juste pour que ça fasse encore plus mal, c'est que tu l'as payé après impôt.
Et puis pas juste ça, j'ai payé des frais de service qui n'ont pas rapport que j'aurais pas payé si j'étais en succursale. J'ai payé aussi les frais de livraison, le pourboire. Ça, c'est un peu plus tannant quand Yannick prend mon cellulaire et met 150$ de pourboire, mais en joke, mais... Mais ça, ça arrive pas à tout le monde.
Le
là.
Gars, il était content. C'est un nouvel arrivant, il était content.
Amine était content. 150$ de pourboire. Mais tu vois, juste ce que tu viens de dire, c'est un très bon exemple, Pascal. C'est un peut-être un 2-3 000$ au bout de l'année, mais tu as 2-3 000$ là que tu prends après impôt, ou tu prends 2-3 000$, tu le mets dans le réel, puis tu es rendu à 5 000$.
Puis tu sais, je me suis calmée vite.
On est ailleurs.
Puis, quand maintenant je commande, c'est que j'ai vraiment envie de quelque chose. Parce que le Monster, la sandwich dont Yannick parle aussi, il y a un moment que ça devient une habitude et que tu le savoures même plus.
Non.
C'est vraiment juste une habitude. Fait que le fait de le couper, il y a une opportunité là. Mais on s'en rend pas compte parce que c'est mécanique.
Il faut se battre contre nos émotions. Et le marketing est fort. Et c'est sûr qu'on se met dans le jus. Fait qu'on a besoin des trucs pratico-pratiques. Puis une journée comme ça, tu te dis, ben c'est pas grave, c'est 12 piastres. Ça commence comme ça, puis à un moment donné, on se rend compte. Puis c'est sûr que si on fait notre budget, on le sait. Ceux qui font pas leur budget, ils savent pas, puis ils veulent pas le voir. Puis c'est plus facile, des fois, de chialer après le gouvernement. Mais oui, il y a des manières aussi d'éviter l'impôt. Peut-être pas éviter l'impôt, mais il y a des manières d'optimiser au niveau fiscal. On a plus beaucoup de temps, mais il y a plein de façons, surtout le côté automatique, d'amasser 3 à 6 mois de dépenses. C'est bien plus important de faire ça en partant parce que vous allez vivre moins stressé que d'essayer d'investir dans les titres à la mode pour dire ça aux beaux-frères. Vous n'avez pas une scène. Commencez par un fonds d'urgence d'investir dans les titres à la mode.
Prenez un petit compte hop, là, puis mettez-vous un 5 à 10 piastres par paye dans ce compte-là. Puis à la fin de l'année, vous allez dire, je ramasserai 500, 600 piastres. Ça a bien du bon sens. Puis ça fait partie d'un fonds, un petit fonds d'urgence.
Quelqu'un qui dit, c'est quoi un compte hop, Yannick?
C'est avec Desjardins.
C'est ça, c'est plus selon ta banque, ton institution bancaire.
C'est avec Desjardins. Je ne sais pas avec les autres institutions, qu'est-ce que vous êtes capable de faire.
Ils ont l'équivalent là, que tu peux aussi, de plus en plus, les budgets, même les cartes de crédit, tu peux quand même budgéter, de voir les différents niveaux de dépenses, puis vous n'avez pas idée où ce que votre argent va, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, bien, tout cet argent-là est dépensé après impôt.
Pat Raymond, du podcast Financièrement parlant, on te suit sur les réseaux sociaux?
Ouais, puis sur le groupe Facebook Questions financières du Financièrement parlant, podcast.
Et demain, mercredi 19h30, le débat des finances, si vous voulez voir Pat, c'est sur telemag.tv.
Si vous voulez vous faire fâcher par Pat.
Je pense que je ne suis pas dans l'épisode de demain, mais c'est l'autre semaine. Mais
nous mail, là.
Mais vous pouvez le regarder quand même.
Merci, Pat. Allez.
Marceau le midi.